Bonsoir tout le monde. Bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Les petits amis. Ça roule? On est quoi? On est lundi? Non, on est mardi. On est mardi, on est mardi, on est mardi. On est mardi. Mardi, c'est ravioli. Individuellement super. Ah, formidable. Bienvenue à vous. Le générique qui ressemble à celui de Deco. Pourquoi il n'y a plus de chat? Bizarre. Le générique ressemble à celui de Deco. Ah bon? J'ai jamais regardé Deco, je sais pas. Je connais pas. Tu veux pas proposer ta candidature pour Matignon? Oh, au point on en est. Au point on en est. J'ai décroché un nouveau taf. Ah, bravo! Félicitations, c'est cool. GG à toi, j'espère que ça va te plaire. Ce polo te va bien. Non, mais ce polo, il va à tout le monde. Enfin, c'est un polo nul. C'est pas très intéressant. Mardi, vendredi. Vacances, vendredi. T'es en vacances, vendredi? Félicitations à toi. Nouveau taf, Premier ministre. Bravo à celui qui décroche le boulot de Premier ministre. Et surtout, bon courage. Ça va être funky. Premier jour de stage. Ah non, ça c'est Attal, c'est son dernier jour de stage. Tu vas un peu en vacances? Pas beaucoup, non, cette année. Parce que je m'en suis pas occupé, que du coup je sais pas ce que je fais. J'ai pas d'autre raison. Donc je vais peut-être partir un peu à l'arrache en août. Passer 2-3 jours par-ci par-là. Tu vas te baigner dans la Seine? Ah bah ouais. Demain? Demain sera un grand jour, demain? C'est la baignade dans la Seine d'Anne Hidalgo. Avec Tony Estanguet. Et avec le préfet de police. Ils vont être beaux tous les trois. Et Macron, il n'a pas donné de date. Alors je pense pas que Macron fasse un pouf dans la Seine. Je crois que Macron, ça a été renvoyé au calendrier grec et à mon avis, il va pas se baigner. Je pense qu'il va dodge. Il va complètement dodge. Non, j'ai passé le week-end dernier, je l'ai passé à Couthures-sur-Garonne, très joli petit village où se tient chaque année le Festival international de journalisme organisé par Le Monde. Et j'étais invité cette année à venir intervenir sur plusieurs tables rondes. Et c'était vachement bien. En fait, c'est vraiment un petit village, hein. Couthures, c'est un tout petit village avec sa petite église, etc. Et chaque année, le village entier est privatisé pendant un week-end pour un festival. Du coup, ils installent plusieurs scènes à plusieurs endroits du village pour les différentes tables rondes, les conférences, les trucs comme ça. Et tous les gens du village s'occupent de. Enfin, ils sont bénévoles sur le festival et sur l'organisation, mais ils s'occupent aussi de d'organiser les différentes baraques à frites. Truc pour la restauration des festivaliers. Il y a à peu près 10 000 festivaliers qui viennent. Ça, je crois que cette année, ils m'ont dit 10 000. C'est Gilles, l'organisateur, qui m'a dit ça. Et c'était très très cool. C'était vraiment très intéressant parce que bah, tout le week-end, tu as une succession d'événements, de tables rondes, de rencontres avec des journalistes, avec des sociologues, avec des gens qui ont des choses à dire en fait sur le journalisme. Et cette année, ils ont décidé d'ouvrir les fenêtres et d'inviter aussi des personnes qui, comme moi, sont à la frontière de ce qu'on appelle le journalisme. Et donc voilà, donc j'étais invité. Il y avait aussi Hugo, non pas Hugo, pardon, Gaspard Gé qui était invité. Il y avait Salomé Sacquet, mais elle n'est pas venue. Bouh! Je l'ai fait chier par texto. Non, franchement, t'es relou. Vas-y, il y a de l'alcool et tout. Il y a du soleil, il y a de l'alcool, viens. Et non, non, elle devait bosser, je sais pas quoi. Soi-disant, elle a un boulot. Enfin, bref, Salomé, quoi. Et donc voilà, donc c'était très très bien. J'étais invité à participer à une table ronde sur comment parler de politique aux jeunes. Avec Gaspard Gé, avec Paul Larouturou aussi. C'était intéressant. C'était chouette. Le lendemain, j'ai participé à une table ronde sur la déontologie des nouveaux médias, la déontologie YouTube, Twitch, etc. quelles sont les règles, les partenariats, etc. Et c'était intéressant. Il y avait le meilleur journaliste de France en matière d'influence et de numérique qui s'appelle Vincent Manilev. Évidemment, il était là, le Vincent d'Internet, le Vincent des PowerPoints de Vincent. Et donc, on a fait une petite table ronde. C'était cool. Et voilà, c'était cool. C'était cool. Alors, le premier jour, j'ai aussi fait un truc. Il m'avait inscrit sur ce truc-là. Je savais pas comment ça marchait. C'était un speed dating. J'ai fait un speed dating. Et en fait, il y avait des gens qui s'inscrivaient et qui faisaient la queue pour venir me parler pendant 15 minutes. C'était extrêmement gênant. À la limite, tu me croises dans les allées du festival, tu m'alpagues, on discute, on parle, on papote de tout ce que tu veux. Enfin, tu vois, moi, il n'y a pas de problème, je suis super accessible. Mais là, le côté, je suis assis sur une chaise et il y a quelqu'un qui va venir me parler pendant 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, il y a un organisateur qui vient nous voir en nous disant faudrait accélérer là, faudrait conclure. C'était très gênant. Mais donc, j'ai rencontré plein de gens super sympas, au demeurant, hein, c'est toujours très agréable de discuter. Et il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit, ouais, il s'est assis, il m'a dit, alors moi c'est pas compliqué, je te connais pas, je sais pas du tout ce que tu fais. Ok. Ok, cool. Et on a papoté. Et c'était sympa, c'était probablement le plus sympa avec qui j'ai discuté. Mais j'aime bien l'engagement du mec, quoi. De s'inscrire à un truc pour parler 15 minutes avec un inconnu. Let's go. Le moins chelou, ouais, c'est ça. Le moins chelou au moins. Et ouais, le dernier jour, j'ai aussi fait une rencontre. Rencontre avec Jean Massier, c'était le titre de la conférence. Et en gros, j'étais seul sur scène et je répondais aux questions du public. Moi, je suis habitué, hein, c'est comme avec le chat, hein, c'est tout pareil, hein. Donc j'ai répondu à plein de questions. C'était sympa, la discussion était cool. Après, le public du festival, il y avait quand même un paquet de gens qui venaient au festival et qui sont des personnes relativement âgées. Enfin, il y a des cinquantenaires, des soixantenaires qui viennent parce qu'ils sont passionnés de radio, parce qu'ils sont passionnés de presse écrite et tout. C'est des gens adorables, mais du coup, enfin bon, ils arrivent. Moi, j'arrive, je suis streamer, qui connaissent ni la plateforme ni ce que je fais. Mais il y en a plein qui étaient super curieux quand même. C'est assez intéressant de discuter avec eux. C'était le festival de quoi? C'était le festival du journalisme, Festival international du journalisme. Est-ce qu'il y avait de la musique? Alors oui, il y avait de la musique le samedi soir. Le samedi soir, c'était gros stuff. Gros stuff le samedi soir, après le spectacle d'Alex Vizorek, parce qu'Alex Vizorek est venu faire une partie de son spectacle aussi. C'était une soirée, et le DJ de la soirée, c'est Jean Guillaume. Jean Guillaume, c'est le responsable des podcasts du Monde. Le mec, son métier dans la vie, c'est responsable des podcasts, de tous les podcasts du groupe Le Monde. Mais à côté de ça, en off, il est DJ. Il est DJ et c'est apparemment ce qu'on m'a dit, c'est le DJ officiel de toutes les soirées du monde. Toutes les soirées de journalistes du monde et même de quelques potes, c'est toujours Jean-Guy qui mixe. Et évidemment, chaque année au Festival international de journalisme, c'est Jean-Guy qui mixe, évidemment, un journaliste du monde. Et c'était énorme. Il était trop trop bien. Il était on fire, il était trop marrant. En vrai, c'est sympa. En vrai, c'est grave sympa. Enfin, franchement, sa musique était trop cool, le mec était en feu et puis voilà, puis c'est un journaliste quoi, c'est trop marrant. C'est trop rigolo. On a tous un pote comme ça, un collègue qui est un peu le DJ commis d'office pour les soirées. Voilà, bah c'est pareil dans le journaliste, il y en a un, il s'appelle Jean-Guy, c'est le DJ des journalistes en France et il mixe trop bien. Et donc on s'est retrouvé à onduler à côté de la scène avec Alex Vizorek, Paul Larouturou, Gaspard Gé et moi. Les quatre connards en train de danser. C'était très cool. La bière était fraîche. La musique était cool. Le club des nerds, ouais c'est ça. Mais c'était vraiment un peu absurde, hein. Vraiment les quatre, qu'est-ce qu'on fout là? Puis en plus, alors évidemment, c'est un peu le drame de ce festival, c'est qu'il y a beaucoup de Parisiens qui y vont, évidemment, dont moi. Et on s'est tous fait la réflexion, putain, on est obligé de venir jusqu'à Couthures-sur-Garonne pour se rencontrer alors qu'on habite tous à Paris et qu'on se voit jamais, quoi. Parce qu'on est tous débordés, en fait. Donc on se voit jamais, quoi. Vizorek, journaliste humoriste. Vizorek, il est humoriste, ouais, sur RTL maintenant, depuis un an. Et Alex Vizorek, je l'avais rencontré à France Inter quand il y était encore, où il faisait Pastèque avec Pasturo sur Twitch. Il m'avait invité. La bière était fraîche, mais elle était bonne. Ouais, en vrai, la bière était bonne. Hein. Non, puis le village est absolument charmant. C'est au bord de la Garonne, tu peux te baigner dans la Garonne et tout. C'est hyper joli. C'est vraiment le cadre pour un festoche. C'est une trop trop bonne idée. Privatiser un village entier et te faire 3 jours de festival. Trop bonne idée. Et donc voilà, donc on a dansé samedi soir. Il y a Gaspard G qui m'a extrait du dance floor en me disant, t'as vu pour Trump? Moi j'étais bourré, je fais hein, quoi? Trump quoi? Il s'est pris une balle. Quoi? Et il m'a montré sur son portable et tout, j'étais en mode waouh. Là j'ai pas d'analyse qui me vient tout de suite, mais c'est chaud. Et après on a échangé nos points de vue sur la situation. On était arrachés, hein. Enfin franchement c'était. Vous n'en auriez vu, c'était pas beau à voir. Hein. Dessoulé immédiat. Ah non, dessoulage immédiat. Non, on n'a pas été dessoulé. L'analyse géopolitique à 3 grammes. Ah, bah ça, c'est un sport national, ça. Eh, on est français ou on n'est pas français? Évidemment qu'on fait de l'analyse politique à l'apéro alors qu'on est complètement éclaté au rosé et qu'en fait, non, mais moi, tu veux que je te dise? Macron, voilà. On fait tout ça quand on est bourré. Évidemment. Je suis sur leur site, il y avait un débat, peut-on concilier croissance et écologie? Comment on peut retrouver en replay? Il n'y a pas de replay du festival, le festival n'est pas capté, il n'y avait pas de caméra. Le festival n'était pas capté. Analyse de PMU, donc. Ah ouais, analyse de PMU, très assumée. Très très assumée. Ah moi, à 3 grammes, je fais des analyses de PMU. Hein. Oh. Moi, vous me connaissez, hein. Moi, je fais des pronostics. Bien sûr que non, Macron il va pas dissoudre, t'es con ou quoi? Il a aucun intérêt à dissoudre, il va pas faire une dissolution après les européennes. Bien sûr que non, le nouveau Front Populaire va pas avoir une majorité relative. Dans le meilleur des cas, ce sera le RN, hein. Voilà, mes pronostics. Ça a toujours été ça, hein. De quel festival tu parles? Je viens d'arriver. Je parle du Festival international de journalisme qui s'est tenu le week-end dernier à Couthures-sur-Garonne. La boussole qui indique le sud ici, exactement. 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 Non mais en plus c'est vrai, eh, vraiment, la dissolution, je vous l'avais raconté, moi, la dissolution, j'étais chez WAM en caleçon en train de jouer à un jeu vidéo. Je jouais à Battlefield 2042 tout en écoutant la soirée électorale sur France Info. Et à un moment, les mecs sur le plateau, ils commencent à parler de la possibilité d'une dissolution. Et moi, je suis là devant mon PC en faisant mais pas du tout. Mais non. La dissolution. On va commencer à faire des scénarios absurdes. Et dès que la dissolution a été annoncée par Macron, ma mâchoire s'est décrochée. J'ai fait oh putain! J'ai lancé un stream. Voilà, c'était mon retour en stream, après plusieurs mois de maladie, mon retour précipité par une dissolution surprise. Et non pas de retour en string. Non, 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 pas ça. Techniquement, le NFP n'a pas de majorité ni relative ni absolue. Pour ça, faut avoir des gens qui se rallient. Alors non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le nouveau Front Populaire est une coalition de 4 groupes parlementaires qui, mis bout à bout, ont une majorité relative à l'Assemblée nationale. Mais il faut compter la coalition en tant que coalition. Si tu sépares les groupes les uns des autres, effectivement, aucun d'entre eux n'a la majorité relative. C'est le Rassemblement national qui a la majorité relative en un seul groupe, sans coalition. Bientôt elle aura plus de majorité relative car vu comment la LFI fout la merde. Alors la LFI c'est pas les seuls à foutre la merde. Si on veut être un tout petit peu exact. Il y a aussi du PS dans le tas. Effectivement, ça a été le feuilleton de ces derniers jours. Les discussions, les négociations du nouveau Front populaire en vue de trouver un nom de Premier ministre et une composition de gouvernement de coalition. Voilà. On a appris vendredi dernier, je crois, que un nom avait été arrêté et avait le soutien de la France insoumise, des communistes et des écolos. Il s'agissait d'Huguette Bello, l'actuelle présidente du conseil régional de La Réunion. Le nom d'Huguette Bello, qui était une députée communiste, elle a été députée pendant 23 ans, elle était communiste. Est-ce que vous vous souvenez qui a sorti l'info? Qui a dégainé l'information qu'Huguette Bello avait les faveurs des insoumis, des communistes et des... Et c'est l'humanité, bien entendu, c'est l'UMA, évidemment que c'est l'UMA, ils sont malins, l'UMA, ils sont malins, c'est ce bon Emilio Mélet, par ailleurs chroniqueur sur Backseat de temps en temps, Emilio a lâché l'info, évidemment, l'UMA, ils sont pas cons, c'est une députée communiste, il y a moyen que le Parti communiste se retrouve à Matignon, donc ils ont dégainé l'info. Les communistes et les écolos ont dit qu'ils étaient d'accord assez rapidement. Les insoumis, ils ont attendu plusieurs heures avant que Jean-Luc Mélenchon ne tweete son soutien à Huguette Bello. Donc, on avait le soutien des insoumis voilà, et il ne manquait plus que les socialistes. Les écolos n'ont rien dit, c'est faux. Alors, de ce qui s'est dit, Marine Tondelier, dans les négociations, a dit oui, mais elle n'a pas consulté ses collègues. Ses collègues ont donc dit, plus tard, ils ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision Huguette Bello. Donc, est-ce qu'ils ont dit oui, est-ce qu'ils ont dit non? C'est compliqué, ça dépend à qui tu poses la question et à quel moment. Donc, Marine Tondelier a validé Bello, mais a posteriori. Ah, peut-être. Et le samedi, le Parti socialiste organisait un conseil national. Vous savez que le Parti socialiste a des instances internes, il y a une démocratie interne au Parti socialiste avec des représentants des fédérations qui composent ce qu'on appelle le conseil national, c'est le parlement du parti. Et le Parti socialiste a rejeté la candidature d'Huguette Bello, qui était pourtant avalisée par tous les autres partis Nouveau Front Populaire. Ce qui a fait évidemment grincer beaucoup de dents. Les insoumis n'ont pas lâché, n'ont pas retenu leur coup contre les socialistes en les accusant d'être des diviseurs. Et les socialistes se sont rattrapés extrêmement rapidement, puisque dans la foulée, ils ont annoncé qu'ils proposaient un autre nom, qui lui aussi avait l'accord des communistes et des écolos, qui est le nom de Laurence Tubiana. Laurence Tubiana, la diplomate, spécialiste des questions climatiques, qui a été l'une des architectes en chef de l'accord de Paris en 2015, qui a aussi été une des responsables de la Convention citoyenne pour le climat, Laurence Tubiana, donc, qui a été proposée par les socialistes, les communistes et les écolos. Et là, du coup, les socialistes, ils ont réussi à retourner la charge de l'accusation de division en se tournant vers les insoumis en disant, bah là, c'est vous qui bloquez. Donc, on en est où? On en est à une chamaillerie où les socialistes et les insoumis s'accusent mutuellement d'être responsables du fiasco et de ne pas trouver un nom de Premier ministre parce que l'un puis l'autre ont rejeté effectivement des propositions qui faisaient l'unanimité des autres partenaires. Voilà où on en est aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi flou du côté du nouveau Front populaire, on se demande s'ils vont y arriver. On a appris aussi, pardon, non quand même, on a appris hier que les insoumis quittaient la table des négociations sur le nom du Premier ministre. Et n'y reviendrait que si le NFP se met d'accord sur un nom pour présider l'Assemblée nationale. Parce que le vote sur la présidence de l'Assemblée nationale, il aura lieu dans 2 jours. Et le vote sur la présidence de l'Assemblée nationale, il se fait à majorité simple en 2 tours. Et si au bout de 2 tours, il n'y a toujours pas de majorité absolue pour un candidat, alors on fait un troisième tour à la majorité relative. Qui c'est qu'à la majorité relative? C'est le NFP. Encore faut-il que le NFP se mette d'accord sur un nom. Donc, les insoumis ont dit on arrête de discuter du Premier ministre, on impose la discussion sur le candidat pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Le perchoir, c'est le surnom du petit bureau d'où sont présidées les séances de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les séances publiques. Et voilà. Et au moment où je lançais mon stream, j'ai reçu une notif. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, aurait déclaré qu'un nom commun avait été trouvé. Mais il n'a pas dit lequel. Il a dit que c'était au président de groupe de faire cette annonce, qui devrait intervenir, je sais pas quand, peut-être demain. Donc, on aurait, selon Olivier Faure, un accord du nouveau Front populaire sur un nom de président de l'Assemblée nationale. On verra. Donc du coup, ça ne fait que repousser à plus tard la discussion sur le Premier ministre. On a appris dans la journée aujourd'hui que Emmanuel Macron, le président de la République, allait formellement accepter la démission du gouvernement Attal de manière à permettre aux ministres qui ont été élus députés de siéger en tant que députés pour le jour du jeudi 18, une journée très importante. Parce qu'on aura besoin de toutes les voix, y compris au sein des macronistes. Le truc, c'est que le gouvernement, donc la démission du gouvernement Attal a été formellement acceptée là, aujourd'hui, vers 17h30, 18h, par le président de la République, ce qui fait du gouvernement Gabriel Attal un gouvernement démissionnaire. Le gouvernement démissionnaire, c'est un gouvernement qui expédie les affaires courantes, mais n'a plus la possibilité de mener des réformes ou proposer des projets de loi ambitieux, etc. Il s'occupe que du fonctionnement habituel et ordinaire de l'État, de manière à lui permettre de fonctionner, et il s'occupe des urgences. Par exemple, s'il y a des feux de forêt dans le sud, le ministre de l'Intérieur démissionnaire peut prendre des décisions de débloquer des aides pour venir en aide aux sinistrés, etc. Ce genre de truc-là, un peu dans le fonctionnement usuel d'un État qui fait face à l'imprévu et à l'urgence. Le truc, c'est qu'on va se retrouver jeudi à avoir des ministres démissionnaires qui siègent à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est hyper chelou. Ça pose un vrai problème du point de vue du droit constitutionnel, parce que la Constitution est quand même assez claire sur l'incompatibilité du mandat de député avec la fonction ministérielle. Principe de séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif, tu ne peux pas être l'un et l'autre. Le truc, c'est que c'est très intéressant parce qu'il y a des constitutionnalistes qui s'engueulent depuis plusieurs heures maintenant, aujourd'hui, pour savoir si c'est possible ou pas. Apparemment, il y a des précédents sous la Ve République où des ministres démissionnaires ont siégé à l'Assemblée, mais c'était l'affaire de 24 heures. C'était dans des moments de mise en manche de trucs qui étaient beaucoup plus évidents qu'aujourd'hui. Donc c'est quand même très chelou cette histoire. Moi, si on me demande, alors moi je suis plutôt d'une interprétation stricte de la Constitution, j'estime que c'est fondamentalement incompatible. Tu peux pas être ministre et député. Tu peux pas voter des trucs à l'Assemblée nationale et ensuite filer dans un ministère pour prendre potentiellement des décrets, fût-ce des décrets d'affaires courantes. Donc il faut signer la pétition pour une assemblée constituante. Toujours pas. Enfin si, il faut signer cette pétition parce que ce serait génial, une assemblée constituante, ça réglerait absolument pas le problème, parce que le problème des ministres démissionnaires, il est dans 48 heures. Il n'y aura pas d'assemblée constituante dans 48 heures, et il n'y aura pas de nouvelle constitution dans 48 heures. Donc c'est chelou. Donc c'est chelou, on a appris que Gabriel Attal, Premier ministre, démissionnaire désormais, était candidat à la présidence du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Très bien pour lui, tant mieux pour lui, très bien. Mais pour moi, il faut qu'il attende de redevenir pleinement député pour pouvoir... Parce que du coup, ce qui va se passer, j'ai vu des constitutionnalistes expliquer qu'en fait, le groupe allait pouvoir voter pour Gabriel Attal, qui deviendra donc président du groupe. Et par contre, Gabriel Attal ne pourra pas siéger à la conférence des présidents de groupe de l'Assemblée. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie chelou ? Donc, on rentre dans une période super trouble, hein, du point de vue du droit parlementaire. Moi, ça m'intéresse beaucoup quand même ce qui va se passer, parce que apparemment, il y a des jurisprudences qui ont validé ce genre de truc-là, auquel cas, d'accord, très bien, mais peut-être qu'il va falloir, peut-être va-t-il falloir que le Conseil constitutionnel mette à jour sa jurisprudence et prenne des décisions dans les prochaines semaines pour mettre fin à des bizarreries comme celle-ci, quoi. C'est toujours pareil quand on pense droit constitutionnel, quand on réfléchit à ces enjeux de possibilité, impossibilité, est-ce que c'est moral, est-ce que ça correspond à la Constitution ou pas, je vous invite toujours à réfléchir en vous mettant dans l'idée fictive que ce sont des gens que vous soutenez qui sont dans cette situation-là. Faut pas réfléchir en termes de Macron-Attal, vous les aimez pas, vous les aimez pas, vous pouvez vous dire ah c'est des salauds, ils violent la Constitution. Mettez-vous dans la tête Jean-Luc Mélenchon, président de la République, et Clémence Guettet, première ministre. Pourrait-elle siéger en tant que première ministre démissionnaire au Parlement? Qu'est-ce que ça vous ferait? Voilà, bah, c'est exactement ce genre d'exercice intellectuel qu'il faut faire quand on pense à la Constitution. C'est pareil sur le 49-3, je vous l'ai toujours dit sur le 49-3. Le 49-3, on déteste ça quand c'est les autres qui le font, parce que c'est méchant, c'est mauvais, c'est antidémocratique, c'est un coup de force, c'est dégueulasse, c'est antiparlementaire, tout ça. Par contre, quand c'est son gouvernement qu'on aime bien qui le fait, on trouve ça parfaitement normal. Et moi, j'ai vu, mais ça m'a fait hurler de rire, quand on a appris que le nouveau Front Populaire avait une majorité relative à l'Assemblée nationale, j'ai vu des gens de gauche sur Twitter commencer à dire, bah tranquille, on va pouvoir faire des 49-3. Les mêmes qui, pendant 7 ans, ont hurlé contre le 49-3 matin, midi et soir. T'es en mode, ok, très bien. Donc finalement, tout compte fait, pas si méchant que ça, le 49-3. Ça a l'air de fonctionner comme outil. Ça a l'air d'être utile. Pareil pour le vote de confiance. Pareil pour le vote de confiance. Exactement pareil sur le vote de confiance. Je suis complètement d'accord avec toi. Tous les insoumis qui ont insulté Elisabeth Borne en disant qu'elle n'avait pas sollicité le vote de confiance, donc c'était antidémocratique, elle ne pouvait pas être première ministre, etc. Très bien, j'ai hâte de voir votre Premier ministre dans quelques jours. Ne pas solliciter de vote de confiance. Donc non, il n'y a pas besoin d'un vote de confiance pour gouverner. La preuve par les faits. Donc voilà, toujours pareil, faites cet exercice. Jean Massier découvre la politique, bravo. Bah, n'hésite pas à me l'enseigner, s'il te plaît, partage tes lumières. La preuve par trois. Ouais, c'est ça. N'hésitez jamais à faire cet exercice intellectuel de renversement de situation en vous demandant si les mécanismes constitutionnels que vous constatez feraient la même chose si c'était vous qui étiez au pouvoir ou si c'était un gouvernement que vous soutenez. Il y a un contexte derrière les lois et les 49-3. Exactement. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs 49-3 différents. Il y a des 49-3 qui sont des passages en force brutaux, il y a d'autres 49-3 qui sont juste des outils de clarification d'une situation qui devrait être claire mais qui ne l'est pas à cause des comportements d'acteurs. Il y a des 49-3 très différents les uns des autres. Et un 49-3 sur un budget, c'est pas la même chose qu'un 49-3 sur une loi retraite, par exemple. Et un 49-3 annoncé dès l'adoption de la loi en Conseil des ministres, ce n'est pas la même chose qu'un 49-3 qui est décidé à la toute fin du travail parlementaire, avec des amendements qui sont pris, etc. Donc voilà où on en est ce soir dans cette situation un peu bizarre. Le NFP n'a toujours pas de nom de Premier ministre. Les couteaux sont tirés entre les socialistes et les insoumis qui maintenant s'engueulent par communiqué de presse interposé. Avant, c'était quand même relativement discret les négociations, on entendait peu parler. Là, c'est carrément directement sur Twitter que les comptes se règlent. Il y a de fortes tensions au sein du Nouveau Front Populaire. Moi, je pense qu'il y a aussi une tension au sein du Nouveau Front Populaire autour de la stratégie à porter en tant que Front Populaire dans les semaines qui viennent. J'ai l'impression que les insoumis essayent de rusher la motion de censure en restant strict sur leur programme et en ne voulant pas le négocier et l'amender en vue de trouver des majorités de projet, alors que le Parti socialiste, lui, souhaite partir du projet du nouveau Front Populaire et l'amender et négocier pour essayer de faire des majorités et essayer de faire passer des lois. En gros, la France insoumise, c'est le programme ou rien, et le PS, c'est bah, autant de programmes qu'on peut, c'est mieux que rien. On va dire que c'est à peu près On va dire que c'est à peu près comme ça que ça se positionne. Le nouveau Front Populaire, moi j'ai vu les critiques qui ont été émises contre Laurence Toubiana, qui sont des bonnes critiques. En l'occurrence, Laurence Toubiana, c'est une diplomate qui a des relations troubles avec les grandes entreprises qui finance sa fondation, je sais pas quoi, ça est un peu complexe. Elle a pris des positions par le passé où elle se félicitait de la victoire d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, qui sont remontées aujourd'hui par des insoumis qui, du coup, la critiquent, et qui refusent la candidature de Toubiana sur un très bon argumentaire qui est de dire Laurence Toubiana, au pouvoir, c'est la garantie de la dilution du programme du nouveau Front Populaire, parce qu'elle fera des compromis avec les macronistes pour essayer de faire passer des trucs et trouver des majorités. Bompard l'a dit lundi, les socialistes veulent amender le programme pour le rendre Macron compatible. Oui, voilà, c'est ça, c'est la critique qui est portée par les insoumis, qui accusent le PS de vouloir faire des compromis avec le programme. Tout en sachant que, en fait, c'est la situation paradoxale dans laquelle on est, on en avait déjà parlé au moment de la victoire du nouveau Front Populaire, c'est que l'application du programme strict du nouveau Front Populaire n'est pas possible. Il n'y aura pas de majorité pour le soutenir à l'Assemblée nationale. Voire il y aura une motion de censure très rapidement. Donc, dans l'année qui vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut développer une culture du compromis qu'on n'a pas en France, à l'allemande, ou est-ce qu'il faut rester dans une logique très 5ème République de majorité absolue et de recherche de pouvoir absolu? Et c'est pour ça que l'année qui vient va être riche d'enseignements de ce point de vue-là, parce qu'il va bien falloir avancer. Ce que je vous disais, c'est que même si le gouvernement Attal est démissionnaire, je ne sais pas combien de temps il va rester démissionnaire, je ne sais pas combien de temps le nouveau Front Populaire va mettre à trouver un nom de Premier ministre, quand bien même Emmanuel Macron décide de le nommer, c'est même pas sûr, il y a un budget qu'il va falloir voter, ou sur lequel il va falloir s'abstenir de voter une motion de censure en 4-49-3 à l'automne prochain. Donc, est-ce que ce sera un budget minimal? Est-ce que ce sera, je sais pas. La volonté de LFI de vouloir faire passer le programme brut sans modification pour forcer les macronistes RN à éclaircir les positions sur des propositions pour le peuple. Oui, non mais bien sûr, mais de toute façon, enfin, je veux dire, les positions vont être éclaircies très rapidement. On sait très bien que les macronistes et les RN voteront contre les propositions du nouveau Front Populaire, peut-être pour des raisons qui peuvent paraître différentes, parfois pour les mêmes raisons, mais y a pas vraiment de doute là-dessus. C'est pour ça que moi je vous disais, et je maintiens encore aujourd'hui mon pronostic. Non, pas mon pronostic, mais je maintiens l'option qui me paraît la plus crédible, c'est que Emmanuel Macron nomme un Premier ministre du nouveau Front Populaire à Matignon et demande à ses députés, ensemble, de ne pas censurer ce gouvernement, en tout cas dans un premier temps. La raison à ça, c'est que Macron veut éviter de faire l'alliance objective avec le Rassemblement national contre le Front Populaire. Parce que ça paraîtrait, et ce serait un argument béton pour le nouveau Front Populaire, pour dénoncer l'alliance de la bourgeoisie et de l'extrême droite qui a saccagé la France en 1940 et qui ferait pareil à cette occasion-là. Par contre, s'il y a un gouvernement nouveau Front Populaire, les députés macronistes, ils vont peut-être pas le censurer dans un premier temps. Par contre, ils vont faire leur boulot de députés. Ils vont déposer des amendements. Ils vont faire adopter des amendements contre l'avis du gouvernement. On va se retrouver avec un gouvernement minoritaire. Donc, quand j'entends dire que le programme du NFP s'appliquera rien que le programme, tout le programme, je dis, mais il faut voir les amendements qui vont être adoptés. Le gouvernement va peut-être se faire imposer des trucs. Donc au bout du bout du bout, il va falloir. Enfin, ce programme sera amendé de gré ou de force. On peut le dire comme ça. Motion de rejet préalable et hop. Oui, voilà, ça, oui, t'as raison, ça peut même adopter des motions de rejet, oui. Bon, comme ça va être rapide, hein. Les débats à l'Assemblée vont être courts. Mais peut-être que les députés Renaissance préféreront faire le jeu des amendements, plutôt que de rejeter préalablement les lois. Est-ce qu'on peut légitimement faire un compromis officiel alors que les électeurs n'étaient pas consultés sur cet aspect? Ça semble au-delà du mandat. Il n'y a pas de mandat impératif en France. Les mandats impératifs, donc c'est les mandats qui sont stricts et avec des obligations de vote spécifiques. Ça n'existe pas, c'est même interdit les mandats impératifs pour laisser la liberté aux députés de négocier. Et le principe des coalitions après des élections, c'est ce qui se passe dans tous les pays d'Europe, hein. C'est ça le principe d'une culture de compromis parlementaire. Comment fonctionnent les amendements vis-à-vis des 49.3? Est-ce qu'on peut faire passer des lois avec le 49.3 sans se soucier des amendements? Oui, tu peux. Le texte qui est soumis à 49.3 par le gouvernement, c'est le texte que le gouvernement choisit de retenir. Ça peut être son texte initial, donc sans aucun amendement. Ça peut être un texte amendé par des amendements, mais seulement les amendements que le gouvernement a décidé de retenir. Et c'est le gouvernement seul qui décide. Je comprends pas, il y a quoi d'autre de possible que le gagnant remporte tout? Eh bien, il y a la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Avec une assemblée sans majorité absolue, et donc la nécessité de faire des compromis. Nécessité de fait, hein, même si elle n'est pas souhaitée par les acteurs. C'est ça qu'on va essayer de voir dans l'année qui vient. Est-ce que cette culture du compromis va se développer en France, ou est-ce que chacun des blocs va rester droit dans ses bottes, censurer les gouvernements des autres, auquel cas on aura un pays ingouvernable et un gouvernement technique? Qu'est-ce qui détermine qu'un gouvernement est un gouvernement technique? C'est annoncé comme tel? Non, c'est pas annoncé comme tel, c'est constaté dans les faits. Un gouvernement technique, c'est un gouvernement, c'est la même chose qu'un gouvernement démissionnaire, hein, d'un certain point de vue. C'est un gouvernement qui n'a pas de marge de manœuvre politique pour faire adopter des projets de loi, des réformes, des trucs comme ça. Tu dis gouvernement technique en solution, mais lui aussi peut se faire censurer. Oui, mais c'est pour ça qu'un gouvernement technique, c'est un gouvernement qui évite les censures en ne faisant rien. C'est un gouvernement minimal. C'est pas un gouvernement d'action, c'est pas un gouvernement de projet, c'est pas un gouvernement de transformation, c'est pas un gouvernement de réforme. C'est un gouvernement de hauts fonctionnaires qui font tourner les boutiques, qui font tourner les ministères. Voilà. Et ils peuvent pas prendre de grandes décisions de changement, de modification, d'évolution, de tout ce que tu veux. À quoi sert un vote de confiance? Un vote de confiance, c'est un vote qui n'a pas d'aspect juridique, un aspect pratique et politique, qui vise à positionner les députés dans la majorité ou dans l'opposition. Si tu votes la confiance à un gouvernement, tu appartiens à la majorité. Si tu ne votes pas à la confiance, tu appartiens à l'opposition. Mais un vote de confiance est généralement demandé par un Premier ministre à l'issue d'un discours de politique générale. Vous savez, un discours de politique générale, bah on va en voir sur ma chaîne bientôt, hein. C'est un Premier ministre qui monte à la tribune et qui dit aux députés, qui dit aux représentants du peuple, voilà la ligne de mon gouvernement, voilà la feuille de route de mon gouvernement, voilà l'agenda de mon gouvernement, voilà ce que je vais faire, et je sollicite, mesdames et messieurs les députés, votre confiance. Et là, dans la foulée du discours et des réponses des différents groupes, il y a un vote où les députés se positionnent. Et ce qu'on a vu avec Elisabeth Borne, c'est qu'un vote de confiance n'est pas nécessaire pour gouverner. Tu peux t'en passer. Le gouvernement n'a pas l'obligation de demander la confiance au gouvernement. C'est une possibilité qui lui est offerte par la Constitution, mais ce n'est pas une obligation. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Elisabeth Borne et Gabriel Attal, qui étaient des premiers ministres minoritaires. Quel avantage du coup? C'est un avantage politique, ça permet de clarifier les lignes. Ça permet de montrer la force de la majorité absolue, quand il y en a une. Qu'est-ce qu'on entend par expédier les affaires courantes? C'est quoi un exemple d'affaires courantes? Expédier les affaires courantes, ça veut dire faire tourner la machine de l'État dans son fonctionnement usuel et habituel, en application des lois en vigueur actuellement, et en se bornant au respect strict, des lois, des directives, etc. Ça veut dire que tu fais tourner la machine classiquement. Par exemple, le ministre de l'Intérieur nomme des préfets. Voilà, il continue à faire des nominations de préfets parce qu'il faut bien qu'il y ait un préfet dans les départements. Donc il nomme des préfets. Il fait des montées en grade dans les commissariats. Enfin, bon, voilà, il fait tourner son truc, quoi. Dans l'éducation nationale, tu prépares la rentrée scolaire, tu avances classiquement, habituellement, tu exécutes ton budget. Fais tourner les choses, quoi. Tu recrutes des profs et tout, classiquement, sans changer. Et l'autre chose que tu fais dans un gouvernement d'affaires courantes, c'est que tu peux prendre des décisions en cas d'urgence. Si par exemple dans ton ministère il y a une urgence particulière, alors tu peux prendre des décisions pour faire face à l'urgence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, sur les incendies de forêt. Les incendies de forêt, bon bah il faut débloquer des budgets exceptionnels pour faire face. Des moyens supplémentaires, voilà, le ministre prend les décisions pour faire face, mais il se borne à prendre les décisions strictement nécessaires. Est-ce qu'on peut avoir des macronistes de gauche qui rejoignent le NFP? Écoute, la semaine dernière, on a entendu parler de la possibilité de naissance d'un groupe de députés social-démocrates qui serait dirigé par Sacha Houlié. Et qui potentiellement serait amené à soutenir des gouvernements du nouveau Front Populaire, mais j'en ai pas réentendu parler. Je crois que ça a fait flop. Je crois que Sacha Houlié n'a pas réussi à trouver assez de copains pour créer un groupe. Comment nommer un préfet s'il y en a un qui meurt, etc. Oh t'inquiète pas, le corps de fonctionnaires de la préfectorale, le corps préfectoral, il y a beaucoup de candidats pour devenir préfet, hein. Pas compliqué, hein. Sacha Houlié n'est plus député. Ah si, si, si. Si, il a été réélu, Sacha Houlié, non? Me fais douter. Oui, il a été élu. N'importe qui peut devenir préfet. Alors il y a un tour extérieur qui fait qu'il peut y avoir des nominations de préfets issus de la société civile, mais c'est pas la majorité. La majorité des préfets, ils sont issus du corps préfectoral qui est lui-même issu des concours de la fonction publique nationale, soit des gens qui sont sortis de l'ENA, soit des gens qui sont sortis des centres de formation des hauts fonctionnaires régionaux. C'est un corps de fonctionnaires, hein, la préfectorale. Le NFP veut refuser des postes à responsabilité au RN, au bureau de l'Assemblée, t'en penses quoi? Moi, à titre personnel, je suis d'accord. Tout ce qui est antifasciste, ça me plaît, mais je suis pas sûr que le nouveau Front Populaire ait les moyens d'empêcher le RN d'arriver au pouvoir, enfin pas d'arriver au pouvoir, pardon, excusez-moi, d'avoir des postes à responsabilité, ne serait-ce que parce qu'on apprend que à Renaissance, ils négocient déjà avec le RN pour des postes à responsabilité. Donc, c'est notamment Yaël Braun-Pivet, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, enfin la précédente présidente de l'Assemblée nationale, qui brigue un nouveau mandat de présidente de l'Assemblée nationale et qui négocie pour ça avec le RN en espérant être soutenue par le RN. Donc, s'il y a des majorités pour voter pour des postes RN, ça va être compliqué. Elle a dit que non. Ah, elle a démenti? Moi, j'ai vu partout qu'elle elle l'a démenti. Ah, d'accord, ok. Bon, je sais pas. Si elle l'a démenti, alors c'est pas, c'est, faut pas lui charger la barque si c'est pas une information vérifiée. Si ce n'est qu'une rumeur et une accusation lancée comme ça sur Twitter, il faut pas y prêter attention. Alors, il y a quand même un poste, ça c'est écrit dans la Constitution, c'est le président de la commission des finances qui doit obligatoirement appartenir à quelqu'un de l'opposition. Mais quelle opposition? Là est la question. Comment ça s'était réglé sous le gouvernement d'Elisabeth Borne en 2022? Les macronistes s'étaient abstenus de participer au vote sur la présidence du groupe, la présidence de la commission des finances. Ils avaient dit, on laisse les oppositions se démerder. C'est leur problème, c'est leur vote, c'est voilà. Et les oppositions à l'époque, c'était qui? C'était la France insoumise, le principal groupe de gauche, et c'était le Rassemblement national, le principal groupe d'opposition à droite. Et comme la France insoumise avait une majorité relative par rapport au RN, c'est Éric Coquerel, le député insoumis, qui a été élu président de la commission des finances. Là, la question va être dure à régler parce que les députés, dans 2 jours, vont devoir se déclarer, enfin les groupes de députés vont devoir se déclarer d'opposition ou dans la majorité. C'est prévu par le règlement de l'Assemblée nationale. Or, opposant, opposant, mais opposant à quoi? Puisqu'on n'a pas de gouvernement. Du coup, faut se déclarer comment? Question. Je sais vraiment, je sais pas ce qui va se passer jeudi, hein. Je suppose que le RN va se déclarer d'opposition. Ok. Mais alors les macronistes et les NFP, ils vont se déclarer quoi? Parce que si les macronistes se déclarent d'opposition, alors les macronistes ont une majorité relative par rapport au RN. Donc, le président de la commission des finances pourra être un macroniste. Mais c'est à supposer que les autres présidents de commission seraient des NFP. Et pour que ce soit des NFP, il faut qu'ils soient élus dans leur commission. Or, le NFP n'a pas de majorité absolue. Ça va être un bordel, les amis. On va peut-être se retrouver avec un gouvernement minoritaire NFP et des présidences de commission d'opposition. Du jamais vu. Enfin, d'opposition. Si le NFP gouverne avec l'assentiment relatif des macronistes qui refusent de voter une motion de censure, est-ce qu'on considère que les macronistes font partie de la majorité? Ah bah non, parce qu'ils font pas partie du gouvernement, ils sont pas dans une coalition d'alliance. Donc ce seront des opposants qui ne censurent pas. Mais est-ce que c'est quand même des opposants? What a time to be alive. En vraie constituante. Toujours pareil, la constituante ne règle pas le problème. Il n'y a pas des règles claires à ce sujet. Absolument pas. Il n'y a pas de règles claires à ce sujet pour une raison simple, c'est que nos institutions, la Ve République, a été pensée en vue de garantir des majorités stables. Donc des majorités fortes. Ce qui, objectivement, a été le cas pendant 70 ans. À l'exception de Michel Rocard, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, tous les autres premiers ministres de l'histoire de la Ve avaient une majorité stable. Et les trois exceptions que je vous ai citées avaient des majorités relatives, mais qui étaient quand même assez claires. Suffisamment pour qu'il n'y ait pas de doute sur ce que c'est qu'être dans l'opposition ou dans la majorité. Là, aujourd'hui, est-ce que si la France insoumise quitte le NFP, alors Renaissance peut être considérée comme le gagnant des législatives 2 semaines après les résultats? Ben non, pourquoi? Ça change pas le nombre de députés total. Non, non. Enfin, encore une fois, remarque, la question que tu poses est une bonne question. Ça veut dire. Ben vraiment, je vous pose la question, ça veut dire quoi gagner une élection? Ça veut dire quoi gagner une élection? Dans le cas d'une proportionnelle, enfin pas non, justement d'un scrutin majoritaire par circonscription. Arriver en tête, ouais. Mais arriver en tête sans pouvoir gouverner pour autant, est-ce que c'est vraiment une victoire? Être en mesure de gouverner à l'issue d'une élection législative, ça me paraît être une bonne définition. Qui est en mesure de gouverner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on appelle gouverner? Tiens, on va rechanger la question. Qu'est-ce qu'on appelle gouverner? Est-ce que ça veut dire appliquer ses idées et les idées de son groupe? Est-ce que ça veut dire faire du mieux qu'on peut, mais être forcé d'accepter des amendements parce que t'as vraiment pas le choix? Victoire à la Pyrrhus, ouais, exactement. C'est toutes ces questions qui sont en train d'être réglées là devant nos yeux, en fait. C'est tous ces enjeux-là qui sont en train d'être discutés. Après ces élections, à l'issue de laquelle la majorité relative est très faible, les oppositions ne sont pas plus fortes, et les coalitions semblent illusoires. Le NFP ne veut pas de coalition avec les macronistes. Ils ne veulent pas s'accrocher à la fusée. Pas à la fusée, pardon, au Titanic Renaissance. Le RN se prépare pour 2027, ils s'en branlent. Eux, ils ont qu'à continuer leur stratégie du costard-cravate. Les macronistes essayent de survivre tant bien que mal. Vu la proposition de Premier ministre du PS, l'alliance avec Macron les dérange peut-être pas tant que ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la différence de stratégie entre la France insoumise et le Parti socialiste, qui ne veulent pas tout à fait la même chose. Le Parti socialiste semble vouloir essayer de créer des majorités de projets dans lesquelles il pourrait potentiellement embarquer des macronistes pour éviter de se faire dégager. Là où les insoumis refusent absolument toute forme d'alliance. Même tactique avec les macronistes, quitte à se faire censurer dans la minute. Au demeurant, les macronistes de leur côté disent clairement qu'ils refusent de soutenir un gouvernement dans lequel il y a LFI. Au moins, ils ont le mérite d'être clairs l'un comme l'autre. Le souci, c'est aussi Macron, comment accepter ça alors qu'il a refusé tout compromis? Ah, tu peux pas dire ça. Ah non, 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 non. Macron, ça fait 2 ans qu'il essaye de trouver un compromis avec les Républicains. 2 ans. 2 ans que le compromis lui est refusé. Et Macron appelle à nouveau à un large compromis entre les forces républicaines à l'Assemblée nationale. Macron fait du macronisme. Il essaye de trouver des compromis entre des gens qui viennent de droite et des gens qui viennent de gauche. Plus personne n'en veut. Déjà qu'en 2017, ça gonflait les oppositions. Là, en 2024, la stratégie du dépassement d'Emmanuel Macron, les partis n'en veulent plus. Pour toi, LFI, c'est d'extrême gauche? Pas du tout. La France insoumise n'appartient pas à l'extrême gauche. Elle n'en a ni l'histoire, ni le contenu idéologique, ni la stratégie. Donc voilà, c'est comme d'ailleurs, moi ça me fait marrer, je vois des responsables politiques de gauche sur Twitter qui disent c'est scandaleux, Macron doit se tourner vers le NFP pour nommer un Premier ministre. Alors, au demeurant, je suis assez d'accord avec l'idée, hein, une majorité relative, il faut se tourner vers ce camp-là pour nommer un gouvernement, mais ce camp-là n'a pas de proposition. Donc bon. Mettez-vous d'accord sur un nom de Premier ministre? Et à ce moment-là, oui, il reviendra Emmanuel Macron de nommer cette personne Premier ministre, je le pense. Et c'est mon opinion. Attention, on peut être en désaccord. Et il y aura sûrement des macronistes qui vont pas être d'accord avec cette opinion en disant non, non, surtout pas, faut pas nommer ce gouvernement d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, violente, woke. Il faut nommer un gouvernement technique, machin. Très bien, on sera pas d'accord, c'est pas grave. Alors, j'ai aussi vu des députés de gauche appeler à un vote des députés de gauche pour choisir un Premier ministre. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça va se régler. J'en doute, puisque la France insoumise n'y a pas intérêt. La France insoumise est minoritaire. À ce petit jeu-là. Veux le dire autrement, à ce petit jeu-là, c'est Toubiana qui est élu Premier ministre. Remarque, attends, je dis ça, mais les insoumis plus les écolos plus les communistes, ça fait plus que les socialistes. Donc en vrai, LFI, ils peuvent gagner à ce petit jeu-là. Ce serait peut-être Huguette Bello, du coup. Dans les deux cas, ce serait drôle. Ou alors, si vraiment on a le sens de l'humour, on fait un truc à choix multiples. Tu dois cocher pour le nom de Premier ministre que tu préfères. Bon courage. Et alors là, je vous pose la question, est-ce qu'on fait un vote à majorité absolue ou à majorité relative? Si c'est un vote à majorité relative, les LFI sont gagnants. En partant du principe que les socialistes, les écolos et les communistes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il faudrait donc faire un NFP au sein du NFP qui se mette d'accord sur un nom de Premier ministre. Le problème qu'il y a avec tout ça, en vrai, indépendamment du nom du Premier ministre, qui sortira ou pas de cette période de négociation, le Premier ministre ou la Première ministre du nouveau Front populaire sera un Premier ministre faible. Parce qu'il sera à la tête d'une coalition qui se déteste, qui ne sont d'accord sur rien. Enfin, non, faut pas que je dise ça comme ça, parce qu'ils sont d'accord sur un programme, ok. Mais qui, de toute évidence, n'avait pas ce choix de Premier ministre comme première option. Donc t'es un peu le plan B, C ou D. Et en plus de ça, il sera ministre d'une majorité relative très minoritaire qui aura besoin de trouver des compromis, ne serait-ce que dans les lois, avec les macronistes. Qui a envie d'être Premier ministre dans ce genre de situation? Bah. Faut voir. Faut voir. Oh, il y a toujours des candidats, il y a toujours des candidats pour devenir Premier ministre. Mais là, Premier ministre d'un gouvernement pareil. Si vous trouviez qu'Elisabeth Borne était sur un siège compliqué, attendez de voir le Premier ministre du Nouveau Front Populaire. Hein. Qui, je le rappelle, peut aussi ne durer que 2 jours. Hein. Si ça se trouve. Tout ça, c'est juste pour 2 jours. Avec tout ça, le Premier ministre sera jamais le prochain président, ça limite les choix. Attends, imagine. Le nouveau Front populaire gouverne, avec abstention de voter les motions de censure des macronistes. Le Premier ministre cartonne. Ça se passe bien. Il a une cote de popularité qui marche bien. Il est candidat à la présidentielle et il la remporte. J'étais là. et la marmotte et le chocolat. Ouais, non, j'en sais. Ah, je fais et moi, je fais des scénarios, hein. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je fais des scénars. J'ai cru comprendre que dans les négociations du nouveau Front populaire, en vue de trouver un premier ministre ou une première ministre, il y avait un peu aussi la volonté d'avoir quelqu'un qui ne soit pas un obstacle pour 2027. Les insoumis comme le PS souhaitant se ménager des possibilités. Tout est possible, mais tout n'est pas probable. Je te l'accorde. Je te l'accorde. T'as raison. Pourquoi ils se prennent la tête sur le nom du Premier ministre alors qu'il y aura forcément des LFI dans le gouvernement et donc censure? Pas sûr qu'il y ait censure d'un gouvernement avec des membres LFI dedans. C'est ce que je vous explique. Les macronistes ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas un gouvernement avec des LFI dedans. Mais ne pas soutenir un gouvernement, ça ne veut pas forcément dire voter des motions de censure contre ce gouvernement. Tu peux être dans l'opposition à un gouvernement et ne pas voter les motions de censure. C'est exactement ce qu'ont fait les Républicains pendant 2 ans. Ils étaient dans l'opposition et ils s'abstenaient plus ou moins de voter les motions de censure en fonction des motions de censure. Peut-être par exemple que les macronistes vont dire nous ne voterons pas les motions de censure du RN. Voilà, comme l'ont fait la gauche au cours de ces 2 dernières années. En revanche, on votera peut-être une motion de censure déposée par les Républicains, non ciottistes. Voilà, peut-être. Ils peuvent laisser le flou, machin. Et puis, ils peuvent se servir du poids qu'ils ont pour menacer le gouvernement de voter ces motions de censure. Et donc, pour faire ad accepter des amendements. J'en reviens au travail d'amendement. Quel que soit le futur Premier ministre, il aura un travail extrêmement difficile et délicat à faire sur les amendements. Le budget sera jamais accepté. Bah justement, c'est un peu la difficulté. Pour qu'un gouvernement fasse accepter son budget, il a besoin d'accepter des amendements de certains, parfois, membres de l'opposition, d'essayer de ménager comme ça des majorités. Et à mon avis, les macronistes auront intérêt à faire monter les enchères. En disant au NFP, ah, vous voulez pas qu'on vous censure? Très bien. Alors dans ce cas, voici nos conditions. Vous ne devez pas gréver les déficits publics de plus de temps. Quelle est l'importance de l'origine d'une motion de censure à part politique? Tout est politique dans ce qu'on est en train de raconter. Une motion de censure, la fin, quelle que soit son origine, la fin est toujours la même, la censure du gouvernement. Mais les motifs sont différents en fonction des partis. Une motion de censure d'extrême droite, par exemple du RN, c'est un texte qui dit ce gouvernement est nul, il ne maîtrise pas assez l'immigration, il ne fait pas assez pour la sécurité du quotidien. Et il laisse l'école entre les mains des wokistes. Voilà, c'est un texte avec une orientation politique. Et pour ces raisons, nous souhaitons la censure de ce gouvernement. C'est ça une motion de censure venue de l'extrême droite. Quand tu es député de gauche ou macroniste, tu peux ne pas avoir envie de voter ça. Non, mais alors, autant je suis d'accord pour censurer le gouvernement, autant vos arguments, c'est mort, je suis pas d'accord avec eux. Donc tu peux déposer une contre-motion de censure, une motion de censure qui vient de chez toi, dans laquelle tu mets tes arguments à toi. Et tous les partis, tous les groupes politiques, pardon, n'ont pas la même stratégie vis-à-vis des motions de censure. Il y a des partis qui votent toutes les motions de censure, quel que soit le texte, en disant on s'en branle de ce qui est écrit dedans, ce qui compte c'est la censure du gouvernement. Ça c'est ce que fait le RN. Le RN vote les motions de censure de gauche. Donc le RN vote des textes de gauche, dans lesquels il y a écrit des trucs de gauche. Ils s'en branlent, ils disent on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est censurer le gouvernement, etc. La gauche, elle, de son côté, historiquement, refuse de voter des motions de censure d'extrême droite. En disant censure, censure, certes, mais pas à n'importe quel prix. Et non, je vais pas voter un texte d'extrême droite avec des arguments d'extrême droite dedans, je ne suis pas d'accord, etc. Il y a eu une exception à ça, c'est quand la France Insoumise a voté une motion de censure des Républicains. C'était une motion de censure ou une motion de rejet, je sais plus, c'était une motion de censure. Où François Ruffin est venu à la tribune de l'Assemblée et il a commencé son discours. Je me souviens, j'étais en stream, abonnez-vous. Et il disait, chers camarades, non pas chers camarades, chers collègues, nous les insoumis allons voter un texte de droite aujourd'hui. Il commençait par ça. Et ensuite il expliquait pourquoi. C'est la seule fois à ma connaissance que des gens de gauche ont voté un truc de droite. C'était LR ou Liotte. Dans mon souvenir, c'était LR. Hein. C'était Olivier Marleix qui avait déposé le truc. Ça devait être une motion de rejet alors. Est-ce qu'une motion peut être invalide? C'est-à-dire qu'une motion full troll qui la rend caduque, peu importe les votes. Ça me paraît difficile parce que le dispositif étant assez peu important, les motifs étant assez peu importants, non, tu peux pas une motion de censure, une motion de censure. Hein. Techniquement, tu peux déposer une motion de censure qui dit je censure le gouvernement. Enfin, nous censurons le gouvernement, point. L'usage veut que tu donnes des arguments, mais t'es pas obligé en fait. Charles de Courson, il est encore député. Charles de Courson a été réélu député, il est candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça arrive que le président se rende à l'Assemblée? Non, jamais, c'est interdit. C'est strictement interdit. Le président de la République n'a pas le droit de rentrer dans le bâtiment des députés. Ça remonte à l'histoire des rois et l'histoire de l'Empire, surtout de Napoléon. La dernière fois qu'un chef d'État est rentré dans une assemblée, c'était avec des armes. Ça s'est appelé le coup d'État du 18 Brumaire. Et ça a laissé un très mauvais souvenir à la République française, qui du coup a décidé que en aucun cas le président de la République ne peut venir dans le bâtiment. Il a ce qu'on appelle un droit d'adresse, c'est-à-dire qu'il peut adresser un message à l'Assemblée, qui est lu par le Premier ministre. Ou alors il peut réunir le Congrès à Versailles, donc en dehors du Palais Bourbon. Les députés et les sénateurs se rendent à Versailles dans la salle du Congrès, et là, le président de la République peut prendre la parole et s'exprimer devant les députés et les sénateurs. Hollande, il n'avait pas fait un speech à l'Assemblée après les attentats? Non, c'était au Congrès, c'était au Congrès. Le Congrès, c'est que depuis 2008 que le président de la République peut s'exprimer devant le Congrès. Il a été réuni une première fois par Nicolas Sarkozy, c'était en 2009, et il a prononcé un discours sur le thème de la crise financière. On était en plein dans la post-crise Lehman Brothers, etc. Donc il avait lancé un grand emprunt, je me souviens, puis il avait parlé beaucoup de budget et de finances publiques. Et ensuite, ça a été François Hollande en 2015, après les attentats. La France a été frappée par des attentats terroristes et le président de la République a voulu marquer l'unité du pays en rassemblant le Parlement et en prononçant un discours devant le Parlement réuni en congrès. Et c'était à l'issue de ce discours-là que le Parlement avait chanté la Marseillaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des images assez fortes où tu avais tous les députés et tous les sénateurs debout qui chantent la Marseillaise en signe d'unité de la République face au terrorisme. Et ensuite, quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, il a réuni à trois reprises le Congrès. Il a voulu essayer de créer une nouveauté qui serait une réunion annuelle du Congrès avec discours du président de la République. Mais il s'est arrêté au bout de 3 ans. De Courson est respecté. Pourquoi le NFP ne le soutiendrait-il pas pour éviter un étalement des voix à un président du RN? Parce que le NFP a les moyens d'empêcher une présidence du RN sans Charles de Courson. Le NFP va préférer voter au scrutin proportionnel, enfin à la majorité relative, pardon, pour un président de l'Assemblée nationale issu du NFP. Qu'est-ce qu'il encourt si le président rentre à la haine? Il commettrait une faute politique dont se saisiraient automatiquement les oppositions qui, sont, qui, sous, qui, saisirait le Conseil constitutionnel, qui voterait une motion de censure contre le gouvernement, qui pourrait potentiellement avoir des velléités de convoquer la haute cour pour juger et destituer le président de la République. Bref, il ferait un cadeau aux oppositions. Il serait bloqué par la sécurité. Ah oui, il serait bloqué par la sécurité. Par la garde républicaine. Vous savez qu'il y a un bataillon de la garde républicaine détaché au Palais Bourbon qui sécurise le Palais Bourbon. Et la garde républicaine, elle défend pas le président de la République. Hein. Elle n'est pas sous l'autorité du président de la République. C'est la garde républicaine. Elle défend la République. Fût-il contre un apprenti dictateur qui voudrait pénétrer dans l'espace sacré des représentants de la nation. Sortirait leur baïonnette, les mecs. Tu te dégages d'ici. Allez, hop, hop, hop. Est-ce qu'on peut assister à une séance à l'Assemblée genre QAG? Oui, c'est public. Tu peux y assister, c'est sur le site internet de l'Assemblée. Je ne comprends pas comment un mec qui rentre à l'Assemblée nationale, ça fait un coup d'État. À peu près tous les coups d'État dans l'histoire se sont faits de cette manière-là. Avec une pénétration dans l'enceinte d'une assemblée. Il y avait des franquistes qui avaient essayé de faire ça à l'Assemblée espagnole avec un général armé qui était venu avec des hommes en armes à l'Assemblée nationale. Il y a encore des images, il avait tiré des coups de feu dans l'Assemblée. Napoléon l'a fait le 18 Brumaire. Pinochet, c'était à l'Assemblée ou c'était à la présidence du Chili? C'était à la présidence, je crois. C'était le palais présidentiel. Aux États-Unis, le 6 janvier 2020, il y a eu une foule haineuse qui a tenté de perturber un processus constitutionnel de certification d'une élection en pénétrant dans l'enceinte du bâtiment de l'Assemblée qui s'appelle le Capitole. Ah, c'était la Moneda, c'était la présidence du Chili, oui. C'était contre Allende. En URSS, la révolution de 1917, c'était contre le tsar, donc il n'y avait pas vraiment de parlement. En revanche, peut-être la révolution d'octobre contre les Mensheviks, je sais plus. Les partisans de Bolsonaro au Brésil? Ah ouais, peut-être, je me souviens plus. Il y avait la Douma, ouais, oui, c'est vrai, il y avait la Douma. Le Reichstag en feu. Alors, l'incendie du Reichstag, c'est toujours encore un peu flou pour savoir si c'est les nazis qui l'ont déclenché ou pas. En tout cas, ça les a arrangés. Bref, tout ça pour dire que le bâtiment où siège l'Assemblée nationale, c'est quelque chose de sacré. Et pas simplement au sens des anges, etc. C'est politiquement, la République doit protéger ces bâtiments, puisque ce qu'il s'y passe, ce n'est ni plus ni moins que la fonction de représentation de la nation. Jean-Luc Mélenchon, il est sacré. Bah, techniquement, à l'époque où il a dit ça, Jean-Luc Mélenchon, il était député. Et c'est vrai qu'un député, c'est assez sacré. Nul ne doit faire obstacle aux députés pour leur permettre de siéger à l'Assemblée nationale. On ne doit pas pouvoir s'en prendre au corps des députés. On ne doit pas pouvoir les menacer physiquement. Ils doivent pouvoir exercer leur mandat. Il y a une sacralité du tribun de la plèbe. dans la démocratie depuis Athènes. Et de la même manière qu'un juge, c'est sacré aussi. Un magistrat ne doit pas être brutalisé, violenté, etc. Il y a une sacralité de l'institution judiciaire. Et ben, il y a une sacralité de l'institution de représentation du peuple en démocratie. C'est pour ça que les députés ont une immunité parlementaire. Pour garantir cette sacralité et pour qu'on ne puisse pas intenter des procès tous les 4 matins aux députés de manière à faire pression sur eux politiquement. Pas d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Donc, immunité parlementaire. Immunité qui peut être levée par décision du bureau de l'Assemblée nationale sur demande d'un magistrat. Sacralité ne veut pas dire religiosité, exactement. Tout à fait. Pourquoi on l'a énormément critiqué dessus avec son propos de sacralité? Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, quand il a dit La République, c'est moi, bah parce qu'il a essayé d'empêcher la perquisition du siège d'un parti politique visé par une enquête pour des malversations financières. C'est pour ça. Et donc sa tentative de coup de force devant un policier qui garde l'entrée du parti a choqué beaucoup de monde, pas ses partisans qui, au contraire, eux, voulaient garantir la sacralité du parti. Au demeurant, on peut aussi discuter de l'importance d'avoir des partis politiques d'opposition dans une démocratie. C'est vrai que la perquisition des locaux d'un parti politique d'opposition, ça fait un peu République bananière. C'est un peu une tentative de. On peut aussi le voir, je trouve l'argument pas déconnant, de dire que c'est une tentative de coup de force de la part du pouvoir en place, de l'autorité policière, qui est sous la coupe du gouvernement, contre un parti politique d'opposition. C'est pareil quand il y a la perquisition d'un journal. La perquisition d'un journal, c'est grave. En démocratie, on ne fait pas ça. Et quand ça arrive, c'est grave. Et c'est normal que les journalistes, que Reporters sans frontières, etc., s'en émeuvent en disant, on ne doit pas faire ça en démocratie, on doit respecter la pluralité des journalistes et on ne doit pas faire pression sur les journalistes pour avoir leurs sources, etc. La perquisition est demandée par le juge, les pouvoirs sont séparés. La perquisition est demandée par un juge chargé de l'instruction de l'enquête, dont l'indépendance peut être parfois remise en question. Mais c'est vrai qu'elle a été renforcée ces dernières années, pas encore complètement. Donc un parti ne peut commettre n'importe quel délit tranquille. Bah non, c'est pas ce que je dis, justement, c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu et il faut faire preuve de. Il faut faire preuve de, je sais pas moi, de mesure, en essayant de trouver une manière de faire respecter la loi par tout le monde, mais de quand même garantir l'indépendance et l'autonomie des opposants, quoi. C'est pareil, vous savez, les cabinets d'avocats ne peuvent pas être perquisitionnés comme ça en claquant des doigts. La perquisition d'un cabinet d'avocats, c'est rare, c'est grave. Doit y avoir obligatoirement la présence d'un représentant du barreau. Et les policiers ne peuvent pas ouvrir tous les tiroirs et ne peuvent pas consulter tous les documents dans un cabinet d'avocats. Ils ne peuvent pas saisir n'importe quoi non plus. C'est la présence du bâtonnier. Oui, le représentant du barreau, quoi. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on parlait de ça. Je sais pas pourquoi on parlait de ça, on parlait de Jean-Luc Mélenchon, La République c'est moi. Oui, on parlait de la sacralité de l'enceinte de l'Assemblée nationale qui doit être respectée et protégée, d'où le fait qu'il y a un bataillon de la garde républicaine qui est détaché, symboliquement, évidemment c'est un symbole, pour montrer l'importance pour la République que revêt l'Assemblée nationale et sa protection nécessaire par les forces armées. Au demeurant, il y a eu une tentative de coup d'État. Le putsch d'Alger, c'était en 62, quand les parachutistes ont menacé de Le plan pour renverser la République, c'était de parachuter des soldats sur le palais Bourbon et sur les différents palais présidentiels et Matignon, etc. Oui, les putschistes, ils visent les bâtiments de la République. C'est pour ça aussi que moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand il y a des appels à manifester devant l'Assemblée nationale. Le 6 février 1934, c'était des émeutes de ligues d'extrême droite devant l'Assemblée nationale. Ils ont tenté de pénétrer dans l'Assemblée nationale. D'ailleurs, hop. Je vais vous montrer. Sur Google Street View. Regardez. Ça, c'est... Bon, vous reconnaissez, hein, c'est le... Oh, putain, mais je cherche mes mots aujourd'hui, c'est horrible. Ça, c'est le frontispice de l'Assemblée nationale, merci, avec ses colonnades, bien connues. Et si vous allez là sur le côté, vous verrez, voilà, regardez. Ici, il y a des gardes armés, et surtout, il y a ces énormes pièces de fonte, hyper impressionnantes. Très hostile. Gros gros pic. Bien vénère. Et bah ces pics-là, ils datent de 1934. Ils ont été installés après les émeutes fascistes en disant il faut qu'on protège le bâtiment contre des foules qui voudraient tenter de prendre le bâtiment d'assaut. Donc ça, ce sont des dispositifs anti-foule qui vise à empêcher que des manifestants qui traversent le pont, là, qui se réuniraient à Place de la Concorde et qui traversent le pont, prennent d'assaut le bâtiment. Il y a ces grosses piques là aussi, très difficiles à franchir. Alors ça d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, ici c'est l'entrée des visites de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il y a des groupes ici de touristes et de scolaires. Ça c'est des petits enfants des collèges qui viennent visiter. Et l'entrée se fait par là, il y a un portique de sécurité. Et tu rentres là-bas et t'arrives à l'Assemblée. Y a aussi des trucs anti-pigeons. Ça, c'est pas des pics anti-pigeons, hein. C'est des pics pour empêcher les manifestants de grimper. Alors, vous avez tous déjà vu des manifestants qui grimpent sur les statues, Place de la République, Place de la Bastille, etc. Bah là, on essaye d'empêcher les manifestants de grimper. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, si vous déposez une demande de manifestation en préfecture. Enfin, pas une demande, pardon. Si vous déclarez une manifestation en préfecture et que vous leur dites on va manifester ici, votre manifestation sera interdite pour raison de sécurité. Vous n'avez pas le droit de manifester devant l'Assemblée nationale, vous avez le droit de vous rassembler place de la Concorde et encore. Donc voilà quoi. Tout ça étant de l'anecdotique, pour vous rappeler, du coup, voilà, la nécessité de protéger la République et les institutions et éviter les coups d'État. Pourquoi ça gênerait Place de la Concorde? Parce que la Place de la Concorde, c'est trop près de deux bâtiments essentiels de la République, c'est la présidence de la République, le palais de l'Élysée, et le palais Bourbon, le siège de l'Assemblée nationale. Donc la préfecture, si tu veux, si tu lui demandes une manif place de la Concorde, il va dire, vous voulez pas plutôt manifester à République comme d'hab? Hein? République Bastille, on fait ça? République Nation, comme d'hab? Et l'ambassade des USA. Oui, t'as raison, il y a l'ambassade des États-Unis, ouais. Ah, ils sont vénères, hein. Ils ont d'énormes plots anti-intrusion. Alliance, ils n'avaient pas manifesté devant l'Assemblée. Si, si, t'as raison. Alliance, ils avaient manifesté devant l'Assemblée. Peut-être que la préfecture, peut-être que le préfet, il a eu peur des flics pour leur autoriser ça. Ou qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas de risque, c'est des policiers, ils vont pas envahir le palais Bourbon. Non, ils avaient juste chanté des slogans, contre la justice. Un coup d'État en France, ce serait compliqué. Les militaires ne suivraient pas ça. Question con, peut-être. Moi, j'y crois jamais au coup d'État militaire en France. L'armée n'est pas une force politique. On n'est pas dans ces pays où l'armée représente un pouvoir politique important, comme à Cuba, comme en Irak, etc., où tu es obligé de composer avec l'armée pour faire ton gouvernement. En France, l'armée, c'est une armée de métier, c'est une armée professionnelle. C'est pas comme à l'époque où il y avait des bataillons d'appelés qui, du coup, représentaient des sensibilités et il fallait faire gaffe à comment est-ce qu'on traite la troupe, parce que la troupe risquait de se retourner ou de fraterniser avec les manifestants, tu vois. On a une longue histoire en France de cette subtilité, pas évidente. D'ailleurs, c'était assez intéressant, c'était dans un podcast. Je me demande si c'était pas dans Enquête de politique de Thomas Legrand, qu'un historien racontait qu'au 19e siècle, donc il y avait toujours des appelés, hein, le service militaire était obligatoire, et à l'époque, ton service militaire, tu le faisais dans ta région. T'allais pas très loin de chez toi, il y avait toujours une caserne pas loin de chez toi, et c'est là que t'allais faire ton service, etc. Et quand il y avait des troubles politiques, à l'époque, il n'y avait pas de CRS, il n'y avait pas de compagnie républicaine de sécurité, il n'y avait pas de policiers chargés du maintien de l'ordre, à l'époque, on envoyait la troupe. C'était très dangereux, hein, parce que la troupe, ils avaient que des fusils. Et du coup, le maintien de l'ordre, c'était de tirer des coups en l'air, et puis en cas de sommation, de refus d'obtempérer, de tirer des coups sur la foule, quoi. Le problème, c'est qu'il y a eu une grève dans le sud de la France, je sais plus où, où on a envoyé la troupe mater la grève. Et le problème, c'est que les soldats de la troupe qu'on a mobilisés contre les grévistes, bah, c'était des potes des grévistes, en fait. C'était des gens qui venaient du même endroit. C'était à Béziers, je crois, c'est ça. C'était à Béziers. Ouais, vous avez raison, c'était à Béziers. Et il y a une histoire comme ça où, en fait, des grévistes qui manifestaient, etc., on a envoyé la troupe, on a demandé à la troupe de tirer sur les manifestants, et la troupe a refusé, parce que c'était les leurs. Enfin, c'était leurs frères, c'était littéralement leurs frères, quoi, qui étaient en face. Et du coup, les soldats ont mis la crosse en l'air, comme on dit, donc ils ont refusé l'ordre de tirer, ils ont fraternisé avec la troupe, et ils ont commencé à marcher vers une autre ville à côté. Et en fait, l'état-major de l'armée s'est retrouvé hyper emmerdant, s'est retrouvé hyper emmerdé avec cette situation. Et je sais plus comment ça s'est fini le truc, mais on a décidé à partir de là que désormais, ton service militaire, tu le ferais loin de chez toi. C'est terminé, les conscriptions d'appelés proches de leur lieu de domicile. On envoie les militaires à l'autre bout de la France. Ça fait un brassage républicain, c'est parfait. Et surtout, quand on leur donne l'ordre de tirer, ils tirent. Parce qu'ils n'ont pas d'affection pour les mecs en face, ils savent pas qui c'est. Nota Bene avait fait une vidéo. Nota Bene avait fait une vidéo. Ouais, je me souviens de cette vidéo de Nota Bene. Qui avait fait une vidéo qui parlait de cette histoire à Béziers. Bref, allez voir. Cette histoire, moi je vous l'ai très mal racontée. Elle était nulle. Mais allez voir la vidéo de Nota Bene, tapez Nota Bene Béziers. La place de Tiananmen, c'était la même chose, les soldats étaient venus de l'autre bout du pays. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Eux, ça m'étonne pas. On a la même logique dans la police. Ah ouais? Dans la police, vous envoyez des. Par exemple, les CRS, c'est des CRS qui viennent d'autres régions pour gérer les manifs. Genre les manifs à Nantes, c'est pas des Bretons ou des Nantais. On va chercher des CRS d'ailleurs, c'est ça? Ok, d'accord. Bah pas étonnant, hein, c'est le même principe qui s'applique. Ok. Surtout en Corse. Ah ouais, j'imagine. Ah oui, en Corse, j'imagine, ouais. Ah ouais. Les CRS, c'est pas des gendarmes. Non, tu confonds avec les gendarmes mobiles. Les gendarmes mobiles ressemblent beaucoup à des CRS, hein, parce qu'ils font le même métier, un hein, maintien de l'ordre, des casques, des boucliers, etc. Mais ce sont les gendarmes mobiles qui relèvent de la gendarmerie nationale. Les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, relèvent de la police nationale. C'est pareil pour les déplacements de supporters dans le foot. Ah ouais, t'en vois pas des CRS marseillais gérer les hordes de supporters marseillais. Ok, bon, bah voilà. La Palestine est-elle un point d'achoppement entre le PS et LFI? Non, la Palestine n'est pas un point d'achoppement entre le PS et LFI. Le PS, comme la France insoumise, condamne les atrocités commises par le gouvernement Netanyahou. Le PS, comme la France insoumise, souhaite la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine par la France. Ah non, non, ils se sont mis d'accord, hein. Y a-t-il des QAG avec un gouvernement démissionnaire? Oui, il y a des questions au gouvernement, je le pense, puisque c'est prévu par la Constitution, les questions au gouvernement. Donc, tant qu'il y a un gouvernement, démissionnaire ou pas, on peut lui poser des questions. Je me demande bien ce qu'ils vont répondre. C'est quoi les QAG? Les QAG, ce sont les questions au gouvernement. C'est une séance qui a lieu 2 fois par semaine à l'Assemblée, au cours de laquelle les députés de tous les groupes posent des questions courtes au gouvernement qui répond de manière courte. C'est un moment d'échange de questions-réponses qui permet aux députés d'exercer leur mission de contrôle de l'action du gouvernement en demandant des comptes au gouvernement sur des sujets d'actualité. Pourtant, Glucksmann est sioniste. Mais c'est parce que tu confonds sioniste et soutien au gouvernement de Netanyahou. Tu fais plus les QAG? Bah là, cette année, non, je les ai pas beaucoup faites parce que j'étais malade. Et je verrai si je les reprends. Je verrai en vrai. Courte MDR, la question dure 2 minutes. Ah bah 2 minutes, c'est extrêmement court pour poser une question. Un moment de démocratie qu'on peut vivre sur la chaîne de Jean Massier d'ailleurs. Exactement. Ce serait sympa comme concept de streamer et de commenter les QAG. Ah, t'as raison, c'est une idée, il faut que j'y pense. Tu streames jeudi? Ouais, je vais streamer jeudi, ouais. On va streamer l'élection du président. On va streamer l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le Sénat a-t-il aussi un moment dédié pour poser des questions au gouvernement? Oui, le Sénat a une séance par semaine de questions au gouvernement le mercredi. À quelle heure jeudi? Jeudi, ce sera à 15h. Rendez-vous à 15h en stream pour suivre ensemble la séance à l'Assemblée. Le rôle du président de l'Assemblée nationale est anecdotique? Non, le rôle du président de l'Assemblée nationale n'est pas anecdotique puisque le président de l'Assemblée nationale peut nommer des membres du Conseil constitutionnel. Le président de l'Assemblée nationale préside les réunions du bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents. Le président de l'Assemblée nationale participe à l'élaboration de l'agenda de l'Assemblée nationale, du calendrier. Le président de l'Assemblée nationale peut émettre des sanctions contre des députés qui violent le règlement intérieur de l'Assemblée. Et puis le président de l'Assemblée nationale représente l'Assemblée nationale ailleurs. Auprès des autres institutions, auprès de l'étranger, etc. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le perchoir, exactement. Le perchoir, c'est le nom que l'on donne au bureau du président de la séance publique dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, où siège le président de l'Assemblée nationale ou un vice-président ou une vice-présidente. Parce que le président de l'Assemblée nationale ne préside pas toutes les séances de l'Assemblée, sinon il ne ferait que ça. Donc il y a une rotation entre les vice-présidents et le président pour présider les séances. Quel est le rôle du questeur? Le questeur, c'est le trésorier de l'Assemblée nationale. Il y a trois questeurs, on appelle ça le collège de la questure. Ce sont des députés élus parmi leurs pairs et qui ont pour rôle de gérer le budget alloué à l'Assemblée nationale pour son fonctionnement. De mémoire, l'Assemblée nationale, c'est 300 millions d'euros par an de budget? J'avais ça en tête.
C'est peut-être beaucoup. Je sais plus.
L'Assemblée nationale paye son électricité? Ah oui. Comme tous les bâtiments publics. Pourquoi faire? Alors, l'Assemblée nationale est composée de 577 députés qui touchent chacun je cherche vraiment mes mots aujourd'hui, hein. Je suis fatigué. Qui touchent une indemnité, ouais, pardon. Chaque député embauche des collaborateurs qui l'assistent dans son mandat. Je crois que l'enveloppe dévolue à chaque député est de 9 000 euros par mois pour embaucher 3 personnes. Il y a une époque, c'était ça. Ça a dû changer depuis, hein, ça a dû augmenter. C'est 622 millions d'euros en 2024, l'Assemblée nationale. Ah ouais, donc j'en étais loin, c'est deux fois plus. C'est deux fois plus. 622 millions d'euros. Donc je vous disais, les députés et leurs collaborateurs, tous les fonctionnaires de l'Assemblée, et il y en a un paquet, les fonctionnaires de l'Assemblée, qui accompagnent le travail législatif. Il y a tous les bâtiments de l'Assemblée, il y en a plein des bâtiments de l'Assemblée, il n'y a pas que l'hémicycle que vous voyez à la télé ou sur ma chaîne. Il y a tous les bâtiments dans le quartier qui sont des bâtiments de l'Assemblée nationale qu'il faut entretenir, il faut payer l'électricité, enfin machin, il faut équiper les bureaux, etc. Il y a la flotte de véhicules. C'est pas énorme, 620 millions d'euros de budget pour une institution comme l'Assemblée nationale. Il y a la Cantoche, ouais. Alors la Cantoche, elle a son propre cycle économique, hein, parce que c'est une association qui gère les différentes buvettes et restaurants de l'Assemblée nationale avec son budget équilibré, mais qui est évidemment payé par l'Assemblée nationale. À côté, pour ceux qui se demandent, la mairie de Paris, son budget, c'est 9 milliards d'euros. Voilà, l'Assemblée, c'est 620 millions. La mairie de Paris, c'est 9 milliards. Pourquoi? Parce que la mairie de Paris est une collectivité locale, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas du tout les mêmes missions. La mairie de Paris, elle est à la fois une ville et un département. Donc elle a l'ensemble des compétences du département et les compétences de la ville. Et la mairie de Paris, elle emploie des éboueurs, ce que n'emploie pas l'Assemblée nationale. La mairie de Paris, elle emploie des assistants d'éducation dans les écoles. La mairie de Paris, elle entretient toutes les écoles et tous les collèges. Et pas les lycées, de la ville de Paris, à plusieurs centaines. La mairie de Paris, elle a des établissements culturels, la mairie de Paris, elle a des mairies d'arrondissement, la mairie de Paris, elle a des services sociaux, elle a des services de logement, elle construit des logements, elle entretient des logements. Il y a à peu près 45 000 équivalents temps plein qui travaillent à la mairie de Paris. Alors, les chiffres que je vous cite, ils datent du début des années 2010. Ils ont 10 ans. En vrai, ça a peut-être changé depuis. Une police municipale maintenant, oui, c'est vrai. Elle nettoie l'eau de la Seine. Bah, tu rigoles, mais la mairie de Paris, elle a fait des investissements de structures colossaux pour assainir l'eau de la Seine en vue des Jeux Olympiques. Bon, après, c'est de l'investissement. Donc, ça coûte une couille. L'année où ça te coûte, mais après, après c'est là pour un siècle ou deux. C'est 11,3 milliards en 2024, la mairie de Paris. Ah oh, putain, la vache. Bah, tu vois, mes chiffres sont anciens. Hein. Mes chiffres, c'est l'époque où j'y travaillais. 9 milliards, je me souviens, c'était en 2012. Ça n'a pas tant augmenté que ça. Ouais, non, c'est l'inflation. Ah oui, parce que la mairie de Paris, elle paye l'énergie, hein. Quand ça augmente pour vous, ça augmente pour la mairie de Paris aussi, hein. C'est quel type de scrutin pour élire le président de l'Assemblée nationale? C'est un scrutin majoritaire à deux tours. à la majorité simple, et si personne n'a la majorité simple à deux tours, on fait un troisième tour à la majorité relative. Il est sympa Delanoë, il est très sympa Delanoë. Jean, tu penses qu'on aura quand le nom du titulaire du perchoir? J'en sais rien. Je sais juste qu'Olivier Faure a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait été trouvé. Et il a dit que ce serait au président de groupe de le nommer. Moi, j'attends, je suis comme vous, hein. Donc on verra bien, hein. On verra bien qui c'est qui est nommé Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Alors attention, il faut encore que l'élection ait lieu. Parce que si ça se trouve, il va y avoir un candidat commun. Non. Entre RN et les Macronistes, il n'y aura pas de candidat commun, mais peut-être que le RN va préférer voter pour un Macroniste de manière à éviter d'avoir un gauchiste au perchoir. Gauchiste dans le jargon du RN, hein, attention, c'est pas moi qui nomme les gens de gauchistes. Pour Yael Braun-Pivet. Ouais, peut-être. Si le nouveau Front populaire s'est mis d'accord aussi vite pour désigner un candidat au perchoir, pourquoi n'ont-ils pas choisi cette personne pour devenir Premier ministre? Bah parce que c'est pas les mêmes missions. C'est pas pareil. Président de l'Assemblée nationale, tu diriges pas le pays. Tu diriges l'Assemblée nationale. Alors tu me diras, c'est une responsabilité importante, c'est... Ok, mais... Premier ministre, tu diriges le gouvernement. Donc tu changes la vie des gens, enfin voilà, tu appliques le programme, c'est pas du tout pareil. Ah non, 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 clairement. Clairement, c'est plus facile de se mettre d'accord pour un président de l'Assemblée nationale que pour un Premier ministre. Parce que dans les négos du Premier ministre, là qu'ils ont depuis plusieurs jours le NFP, etc., ils discutent pas que du Premier ministre. On se focalise beaucoup sur le Premier ministre, mais évidemment, ils discutent des postes, ils discutent des ministères. Ça négocie. Est-ce que vous êtes OK pour avoir un Premier ministre qui soit pas de votre parti, en échange de quoi je vous laisse 6 ministères, dont 3 régaliens? Ça négocie, ça discute. Tac-tac, on mettrait qui? OK, pourquoi pas, d'accord, nous on est prêts à faire ça. À l'inverse, contre-proposition, bah non, on préférait avoir Matignon, en échange, on vous laisse à vous 2 ministères régaliens. Tu vois, elles sont là, les négos. C'est quoi un ministère régalien? Les ministères régaliens sont considérés comme les ministères les plus importants du gouvernement, parce que ce sont les ministères de l'autorité, ce sont les ministères de la légitimité de l'État. C'est la justice, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des Finances. Voilà. Après, il y a des ministères qui ne sont pas régaliens, mais qui sont... La Défense, oui, la Défense, bien sûr, vous avez raison. Il y a des ministères qui ne sont pas stricto sensu régaliens, mais qui sont très importants en masse d'argent dépensé et en nombre de fonctionnaires. Par exemple, l'éducation nationale. Très très gros ministère, l'éducation nationale. Alors, c'est pas structurant dans la vie quotidienne des Français, mais c'est très important et c'est investi d'une mission importante, etc. Ministère de l'écologie a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'importance. Alors encore une fois, mais ça, faut en discuter. Oui, vous avez raison, il y a le ministère de la Santé et des Solidarités. Il s'occupe de toute la sécurité sociale, etc. C'est important, en plus de la santé. Il y a aussi, comment est-ce que tu construis l'architecture de ton gouvernement et quel ministère tu mets en relation avec qui? Parce qu'un ministère peut avoir des ministères délégués ou des secrétaires d'État. Oui, tu as raison, il y a les affaires étrangères aussi dans le ministère régalien. Oui, tu as raison, la diplomatie française, très important la diplomatie. Non, mais il y a aussi comment tu architectures, ouais, on va dire ça comme ça, ton gouvernement. Par exemple, tu peux mettre un ministère de l'écologie qui s'occupe que de l'écologie, tout seul. Bon, très bien, mais on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Si tu mets sous la coupe du ministère de l'écologie l'énergie, toute la politique industrielle de l'énergie, nucléaire, renouvelable, etc., les transports, c'est important les transports dans l'écologie, l'aménagement du territoire, très important sur l'artificialisation des sols. La souveraineté alimentaire, tu peux mettre le ministère de l'agriculture sous la coupe de l'écologie, ou pas. Tu peux mettre le logement, ou pas. Tout ça, c'est des guéguerres qui sont très 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 importantes. C'est pour ça que parfois, il y a des gens dans le chat pour rigoler qui me demandent, ouais, Jean, t'aimerais bien être ministre de ci, ministre de ça, etc. En fait, moi qui ai bossé à l'intérieur de la machine, je suis bien placé pour savoir que l'enjeu, c'est pas d'être ministre de quelque chose. L'enjeu, c'est d'avoir effectivement le pouvoir dans son portefeuille. Parce que si tes attributions de ministre, on leur retire les trucs où en réalité les décisions se prennent, eh ben tu vas rien faire comme ministre. Tu vas pas faire de politique publique, tu vas. Non, non, que dalle. Genre Hulot à l'écologie. Alors je ne me souviens plus quelles étaient les attributions de Nicolas Hulot, mais il avait estimé effectivement qu'il n'avait pas la main. Par la suite, on a quand même eu des ministres de l'écologie qui avaient des responsabilités importantes, hein. Moi, je me souviens des ministères de l'écologie. C'était avec Barbara Pompili, c'était avec. Je ne sais plus quels étaient les noms des autres, qui avaient le logement, le transport, l'énergie, sous leur responsabilité. En vrai, Macron, on en pense qu'on en veut, d'un point de vue écologie, etc. Il a créé une architecture gouvernementale très puissante d'un point de vue de l'écologie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait grand-chose avec cette puissance. Mais de toute évidence, il a quand même fabriqué un truc. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un secrétariat général du gouvernement chargé de la transition écologique. Avant, ça n'existait pas, ça. On a un secrétariat, on a un secrétaire général du renseignement intérieur, de la sécurité intérieure. Et on a un secrétariat général de la transition écologique. Et tout ça, enfin voilà, ça c'est une architecture de l'État, de son fonctionnement, etc., qui est très important. C'est pour ça que quand il y a des remaniements, quand il y a des remaniements, à chaque fois, les journalistes télé, radio notent l'intitulé du ministère avec la tête du ministre qui est nommé. Mais les journalistes spécialisés, eux, ils regardent pas ça, ils regardent les attributions des ministres. Et en général, les attributions, ça se règle dans les jours qui suivent le gouvernement, la nomination du gouvernement. Si ça n'a pas été réglé avant, ça se règle après et ça s'engueule à Matignon en réunion interministérielle. Et le Premier ministre arbitre et décide des répartitions des compétences entre les ministres. Secrétaire général égale PM et président, pas ministère. Mais non, mais justement, c'est pour ça que je dis que c'est important. Moi, je trouve que c'est plus important. Je suis d'accord avec Barbara Pompili. Breaking news, je suis d'accord avec Barbara Pompili quand elle dit que c'est plus important d'avoir un secrétariat général à la transition écologique plutôt que d'avoir un ministère de l'écologie. Parce qu'un secrétariat général, c'est transversal, c'est transdisciplinaire, interministériel. Et c'est au-dessus des ministères. C'est sous la coupe de Matignon et de la présidence de la République et au-dessus des ministères. En revanche, en cohabitation moyen. Non, non, en cohabitation stricte, c'est le Premier ministre qui a la main, hein, sur les secrétaires généraux, t'inquiète pas. Non, 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 pas d'inquiétude à avoir, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, quel est le rôle du ministre des Relations avec le Parlement? C'est quoi son taf? Très bonne question. Le ministre des Relations avec le Parlement, quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est une blague. On a l'impression que c'est un guignol. Qu'est-ce que c'est qu'un ministre des Relations? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi son ministère? C'est quoi ses fonctionnaires? C'est quoi ses services de l'État, ce mec-là? Qu'est-ce qu'il dirige? En fait, le ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est l'un des ministres les plus importants d'un gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est la cheville ouvrière des accords entre le gouvernement et le Parlement sur l'écriture des lois et des budgets. C'est un médiateur extrêmement important pour réussir à faire passer des lois. Je vous rappelle qu'un ministère, qu'un gouvernement, ça sert à changer les choses. Ça sert à porter des politiques publiques, ça sert à porter des réformes. Si tu as le meilleur gouvernement du monde, mais que tu as un mauvais ministre des Relations avec le Parlement, ton gouvernement, il sert à rien. Il va rien réussir à négocier, il va rien obtenir, il va être tout pourri. C'est extrêmement important d'avoir un bon ministre des Relations avec le Parlement quand tu es un gouvernement. C'est un mec qui n'est jamais interviewé, c'est un mec qui prend jamais la parole, les Français ne le connaissent pas, c'est pas grave, on s'en branle, c'est pas son job. Ça, c'est le job du porte-parole du gouvernement. D'aller sur les plateaux télé, de répondre aux interviews et de faire des conférences de presse. Le ministre des Relations avec le Parlement, son boulot, c'est de passer sa journée au téléphone, pendu au téléphone, avec des députés et des sénateurs, pour essayer de négocier des trucs. Négocier des calendriers, négocier des passages de projets de loi en proposition de loi, des machins, des trucs, des coups de billard et tout, c'est son job de réussir à faire avancer le gouvernement, politiquement. Donc, ne sous-estimez jamais le ministre des Relations avec le Parlement, ce n'est pas un guignol, c'est probablement l'une des pièces maîtresses de votre gouvernement, si un jour d'aventure vous êtes nommé Premier ministre de la République française. Son budget restaurant doit être énorme. Tu rigoles, mais ça fait partie des gens qui ont deux déjeuners de travail par jour. Hein. Moi, j'ai connu des politiques qui avaient deux déjeuners de travail par jour. Leur agenda est tellement infernal qu'ils calent deux déjeuners l'un après l'autre. Ils grignotent une entrée pendant le premier déjeuner, ils grignotent un dessert pendant le deuxième, et puis... Et puis le reste du temps, de toute façon, ils n'ont pas le temps. Ils sont au téléphone, Et le soir, quand ils rentrent dans leur bureau au ministère vers 21h30, ils peuvent commencer à signer des documents. Avec une pile comme ça de parafeurs qui les attendent depuis le matin. Je vous avais raconté l'anecdote quand je suis rentré au cabinet de la ministre de la Santé en 2014. Quand je suis entré au cabinet de la ministre de la Santé, bon bah j'ai pris mon bureau, etc. Très bien. Et le premier jour, je passe une tête dans le bureau du chef de cabinet. Greg, si tu m'écoutes Greg, des bisous. En plus, je crois qu'il est chef de cabinet de Gabriel Attal maintenant, Greg. Bah oui, c'est normal, il a bossé avec Gabriel, avec moi aussi, on était collègues. Enfin bref. Je passe une tête dans le bureau de Greg, et son bureau, il y a une immense table de réunion au milieu de son bureau, qui est remplie de parafeurs. Mais genre, il y a une espèce de montagne absurde de parafeurs. Est-ce que c'est un parafeur? Un espèce de cahier porte-document rose sur lequel vous épinglez avec une trombone des documents et ça sert à paraffer. C'est-à-dire qu'un paraffeur, tu mets des documents à signer. Ça sert à lire le courrier, ça sert à signer des documents, des décrets, des trucs comme ça. Et donc les politiques, ils ont des paraffeurs, donc ils tournent les pages, ils signent en bas de la page, ils tournent les pages, ils signent en bas de la page. Quand je bossais à la mairie, à gauche, on écrivait l'argumentaire politique et à droite, on mettait le document à signer. Du coup, la maire, pour qui je bossais, elle prenait son paraffeur, elle l'ouvrait, elle lisait la note qu'on lui avait écrite à gauche et si elle était OK, elle signait. Et si elle n'était pas OK, elle te mettait un commentaire en disant « Non, attends, ça va pas, appelle-moi, viens dans mon bureau », un truc comme ça. Et ensuite, les secrétaires faisaient... Enfin bref. Je reviens à mon anecdote. Je passe une tête dans le bureau de Greg, il y a cette montagne de paraffeurs sur son bureau. Moi, j'arrive... Je lui dis « Salut Greg, tu fais du tri aujourd'hui ?» Il se retourne, il me regarde, il regarde le bureau, il me fait « Ah ça ? Ah non, ça c'est juste les paraffeurs d'aujourd'hui. Hein. » C'était tous les paraffeurs qu'il devait viser, comme on dit, pour checker avant de les passer à la ministre. Et je retourne dans mon bureau. Je retourne dans mon bureau et là je vois passer dans le couloir un fonctionnaire, un appariteur de l'étage qui se balade avec un caddie de supermarché rempli de paraffeurs. Genre il y a tellement de paraffeurs qu'on se balade en caddie dans les couloirs du ministère pour pousser les paraffeurs et les dispatcher dans les différents bureaux. Et effectivement moi chaque matin j'avais des paraffeurs, c'était les services, les secrétariats qui s'occupaient de l'organisation des paraffeurs et qui faisaient circuler les paraffes. Entre les bureaux, entre les étages du ministère aussi, parce que parfois tu dois faire viser les textes par les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires chargés des différents trucs. Donc tout ça est un circuit très bien rodé. Hein. Les secrétaires, c'est les femmes, c'était que des femmes. C'est les femmes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées de ma vie.
Elles avaient un métier parce qu'elles, elles devaient gérer les parapheurs plus les coups de téléphone. Et les mails. C'est quoi le rôle du cabinet? Le cabinet, c'est une équipe de collaborateurs et de collaboratrices d'un politique qui sont attachés à son service et qui l'accompagnent dans l'exécution de son mandat ou de sa fonction. Donc un cabinet, c'est ton équipe resserrée, c'est une équipe politique, et j'insiste sur le caractère politique du cabinet, parce que le cabinet n'est pas neutre politiquement. Le cabinet, il est attaché au mandat politique du politique et il est là pour servir le politique. À la différence avec les fonctionnaires qui, eux, ont une fonction publique et qui doivent rester neutres politiquement dans leurs tâches diverses et variées. Donc voilà, donc le cabinet, ce sont des conseillers qui jouent le job à la fois de conseiller sur les décisions à prendre, mais qui aussi organisent l'ensemble de l'architecture du pouvoir, de l'organisation, de la mise en branle des initiatives, qui calent des réunions, qui s'engueulent entre ministères, qui... Voilà quoi. Est-ce que tu dois être encarté pour être dans le cabinet? Non, tu n'as pas besoin d'avoir ta carte dans le parti politique, on s'en branle. Par contre, il faut être cohérent avec soi-même, tu bosses pour un politique avec lequel tu es d'accord. Sinon, tu bosses pas pour lui. Et crois-moi, tu ne dors pas 6 heures par nuit pour bosser pour quelqu'un que tu détestes, ou avec qui t'es pas d'accord. Si vraiment t'as un désaccord, tu quittes le cabinet, hein, c'est pas grave. Il y en a d'autres des postes, hein. Un cabinet qui doit du coup partir aussi si le ministre change, contrairement à l'administration. Exactement, absolument. Tu es attaché in situ personae à la personne du politique pour qui tu travailles. Si cette personne est virée, démissionne ou décède, tu dégages. Et c'est écrit dans ton contrat de travail. La fin de ton contrat de travail coïncide avec la fin de la fonction de ton politique. Moi, j'ai travaillé pour une maire. Pendant des élections municipales. Mon contrat de travail s'est arrêté le soir du premier conseil municipal post-élection. C'était obligatoire. C'était quoi ton job au ministère? Ben moi, j'étais au cabinet de la ministre de la Santé et des Affaires sociales et des droits des femmes et j'étais chargé des discours et interventions. Un petit discours à nous faire là? Pouah non, j'ai perdu la main, c'était il y a 10 ans. J'ai pu faire moi. Est-ce que t'as une indemnité quand t'es viré? Ça peut être prévu dans ton contrat. Ça peut être prévu, mais c'est pas automatique. Il n'y a aucune période de transition avec les successeurs, c'est chaud de reprendre tout le taf d'un coup comme ça. Mais ça, c'est le problème des successeurs, c'est pas le tien. Toi, quand t'es viré, t'es viré. Par exemple, si le gouvernement tombe à l'extrême droite et qu'un nouveau ministre de l'extrême droite vient avec son équipe à lui, moi je vais pas faire de passation de pouvoir avec son équipe de connards. Hein. Il n'y a pas de passation de pouvoir. C'est le rôle des fonctionnaires que d'assurer la continuité du service. Mais le cabinet politique, il dégage avec la politique. Hein. On perd les élections, on perd les élections. On va pas commencer à filer des coups de main aux mecs d'en face. Hein. De la même manière, ils nous enfilent pas non plus hein, des coups de main. Donc, non, mais t'es viré, enfin, c'est... Sans indiscrétion, tu gagnais combien? À l'époque, j'étais payé 3 600 euros net par mois, de mémoire. Pour combien d'heures environ? J'étais au forfait, hein. Je sais pas, je vais faire 60 heures par semaine, ouais. Bah, j'arrivais avant le petit-déj, je repartais après le dîner. Je suis resté 1 an. Moins d'un an. Je suis resté 11 mois, 10 mois, 11 mois, je sais plus. J'ai écrit 300 discours. Intervention. T'as pas de vie perso dans ce genre de boulot? Bah moi j'avais pas le temps en tout cas d'en avoir une vie perso. Ça fait quasi un par jour. Ouais, ça fait quasi un par jour, ouais. Et souvent, il y en avait deux dans la même journée, et il fallait les préparer 3 ou 4 jours en amont, et ça faisait l'objet d'allers-retours interminables. Jamais je fais ce genre d'engagement, mais ma femme me bute direct si je rentre pas le soir. Ah bah moi j'en avais des anecdotes de collaborateurs de cabinet qui se sont séparés, enfin dont les femmes ont demandé le divorce parce qu'ils rentraient plus à la maison. Hein. Ça j'en ai vu plus d'un. Je me souviens d'un collègue d'ailleurs au cab. C'était hyper touchant parce qu'il m'avait dit, on parlait de ça, on parlait du fait qu'on n'avait pas de vie et qu'on passait notre vie au ministère et que c'était infernal. Et lui me disait qu'il avait une fille. Il me racontait qu'un jour au petit déjeuner, sa fille elle portait une médaille autour du cou. Et il lui dit, elle est jolie ta médaille, ma chérie, elle est belle, tu l'as eue où? Et sa fille lui répond, je l'ai eue à l'équitation. Et il se tourne vers sa femme, et il dit, mais elle fait l'équitation? Et sa femme lui répond, ouais, ça fait 6 mois. Et il m'a raconté ça, les larmes aux yeux, tu vois, en me disant, bah, enfin voilà quoi, je savais même pas qu'elle faisait l'équitation, je suis. Ok. Ok, c'est dur. Et il y avait mon directeur de cabinet adjoint, que j'adorais, Raymond, qui dormait sur un lit de camp dans son bureau. Il dormait 4 heures, quoi. Natacha, c'est qui la gamine dans le salon? Tu viens de refroidir l'idée de poursuivre cette voie. Ah bah c'est une voie. Après, attention, attention, attention. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières en disant c'est un métier difficile, c'est horrible, etc. C'est un métier qu'on choisit et c'est un métier qu'on aime. Parce que on vit au cœur du réacteur nucléaire de la politique. Quand on aime la politique, en général, c'est un truc qu'on aime faire. C'est peut-être pas compatible avec toutes les vies de famille, avec toutes les aspirations à l'équilibre personnel, etc. Mais c'est compatible avec une envie de vivre au cœur de la politique. Enfin, moi, je me souviens enfin, je suis allé à l'Élysée plusieurs fois, je suis allé à Matignon, je suis allé à l'Assemblée nationale plein de fois. J'étais commissaire du gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc j'accompagnais les ministres. La ministre à l'Assemblée. Enfin, je l'ai fait qu'une fois en réalité. Non, 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 je l'ai fait plusieurs fois parce que c'est moi qui écrivais les discours qu'elle prononçait au perchoir et du coup je voulais l'entendre. Donc j'allais à l'Assemblée, j'étais. Enfin, j'étais au cœur du game, quoi. C'est un métier de passion? Ouais, c'est un métier de passion, c'est un métier d'engagement, c'est un métier d'abnégation, c'est un métier de passion, ouais, clairement. Pour savoir si elle lisait bien ton discours. Bah en fait, c'était hyper important pour moi d'écouter la ministre prononcer des discours pour adapter ma manière d'écrire. Parce que c'est pas elle qui lit mes discours, c'est moi qui écris ses discours. C'est pas la même chose. Et donc, il faut que je me cale sur son rythme, il faut que je me cale sur sa manière de lire, sa manière de parler, etc. Est-ce qu'un vulgaire ingénieur peut faire ce genre de boulot? Tout le monde peut faire ce genre de boulot. Il faut être ultra politique. Il faut percuter les enjeux de pouvoir, les enjeux d'influence, et les. Prononcer un discours quand t'es un politique, c'est dire des choses à des gens. Mais il faut savoir à qui tu parles, il faut être conscient du message que t'as envie de leur faire passer, des choses que t'as envie de voir évoluer, etc. Il faut ménager des susceptibilités, il faut. C'est un équilibre, c'est un jeu d'équilibriste. Et c'est pas facile. Et puis faut, et puis faut dire ce qu'on pense. C'est quoi la plus grosse gaffe que t'es faite dans un discours, si t'as le droit et l'envie d'en parler? J'ai confondu millions et milliards sur un chiffre à l'occasion d'une audition de la ministre par la commission des finances. Je me suis fait gueuler dessus. C'était mérité. Une autre connerie que j'ai faite, je suis allé dîner au restaurant pour l'anniversaire de ma grande sœur en me disant c'est bon, ce soir ça devrait le faire. Et en fait, vers 21h, la ministre apparemment m'a demandé et j'étais pas dans mon bureau. Et je me suis fait engueuler par la ministre le lendemain. Il m'a dit, si vous n'êtes pas à votre poste, ça sert à rien d'être là. Pardon, madame la ministre. Oui, madame la ministre. Vous avez raison, madame la ministre. Quelle ministre? C'était Marisol Touraine. Démission directe. Non. Non, quand tu te prends une soufflante par la ministre, ce qui arrive, tu vas chouiner dans le bureau du chef de cabinet qui te dit « T'inquiète, normal, elle est comme ça. » Qu'est-ce qu'elle devient? Elle est à la tête d'une ONG qui s'appelle United. Je crois que c'est une ONG qui travaille à faciliter l'achat de médicaments et de produits médicaux dans les pays en voie de développement. Elle avait été interviewée par Léa Chamboncel et elle expliquait un peu le travail de son United et c'est hyper intéressant en fait. Il y a des médicaments qui ne sont pas développés parce que les laboratoires pharmaceutiques n'y ont pas d'intérêt économique. Or, il serait utile à énormément de populations dans beaucoup de pays développés. Et donc, le but du jeu, c'est de réussir à faire naître une demande dans tous ces pays développés pour que ça commence à représenter un intérêt économique de travailler au développement de ces médicaments. Et ce travail-là, il ne peut se faire que sur un travail international de négociation et de... Bref, pour faire baisser les prix du médicament et les rendre accessibles aux pays en voie de développement, il y a tout un travail qui est mené par des ONG. Comme pour les vaccins, oui c'est ça, on a vu ça pendant le Covid, il y a des commandes groupées de vaccins par des petits pays, mais qui une fois qu'ils se mettent tous ensemble, deviennent suffisamment puissants pour que ça représente un intérêt de produire en immense quantité des vaccins. Et ça n'a rien à voir avec les brevets, hein. Ça n'a absolument rien à voir avec les brevets, c'est parce qu'un brevet est libre de droit que le médecin est développé, que le médicament est développé. C'est quoi la plus grosse soufflante que tu aies entendue ou vécue durant cette vie-là? Non, je vous en parlerai pas. C'est off. Il y a des politiques qui ont personne qui leur écrive des discours. Ah oui, la plupart des politiques n'ont pas de conseillers particuliers chargés des discours, hein, c'est rare. C'est devenu plus rare même maintenant, parce qu'il y a de moins en moins de gens dans les cabinets. La plus grande fierté... j'avais écrit un discours pour les 50 ans de la loi Veil sur l'avortement. De mémoire, j'avais bien aimé. J'avais écrit un discours sur le cancer colorectal. J'avais écrit un discours sur l'inauguration de l'IRM de l'hôpital de la Guyane. J'avais écrit un discours pour la Sainte-Barbe, pour les pompiers de Tours. J'avais pas d'inspire. J'avais écrit un discours pour la commémoration du drame du sang contaminé. C'était dur à écrire, hein, parce que tu t'adresses aux associations d'hémophiles, aux familles des victimes qui ont perdu leurs enfants. Et un ministre de la Santé de gauche, c'est compliqué. Parce que les familles des victimes, et c'est tout à fait compréhensible, considèrent que toutes les responsabilités n'ont pas été établies et que Laurent Fabius est encore responsable. T'avais combien de temps pour écrire ces discours? Bah, en général, je travaillais avec le chef de cabinet. Donc le chef de cabinet, c'est celui qui s'occupe de l'agenda de la ministre. C'est lui qui sait quand est-ce qu'elle va aller où et pour faire quoi. Et j'identifiais dans l'agenda prévisionnel de la ministre des déplacements et les discours qu'elle allait devoir prononcer. Donc on checkait très rapidement avec le chef de cabinet pour dire « Ok, on est d'accord, là il y a un discours, là il y a un discours, là il y a un discours. » Et sur chacun des discours, j'allais voir mon collègue conseiller chargé du domaine en question, du domaine du discours qu'elle va prononcer. En fonction des déplacements, elle ne parle pas de la même chose. Elle s'occupait des affaires sociales, elle s'occupait de la santé, elle s'occupait des droits des femmes. Donc elle écrivait aussi bien sur le handicap, sur la famille, la petite enfance, les hôpitaux, les médecins généralistes, les virus, les violences sexuelles et sexistes, etc. Donc j'allais voir mon collègue ou ma collègue et je lui disais « Vas-y, balance-moi tout, c'est quoi ce déplacement? Qu'est-ce qu'elle va faire? À qui elle va parler? Et c'est quoi le message qu'elle doit faire passer ?» Donc il me racontait tout ça, je prenais des notes, je retournais dans mon bureau. Et ça c'était 4 jours avant le déplacement? Ouais. 4 jours, 3 jours. Je retournais dans mon bureau, j'écrivais un premier jet de l'architecture du discours. Je le faisais relire par mon collègue. On checkait si tout y était ou s'il manque des trucs. Je rajoutais tout ça, blablabla. Et ensuite, ça passait à la relecture du directeur adjoint de cabinet. Puis du directeur de cabinet. Et à chaque fois, faisait des modifications que j'intégrais. Puis à la ministre. Et à partir du moment où c'est la ministre qui lisait le discours, là, c'était plus qu'entre elle et moi. On faisait des allers-retours, elle et moi. Sur les modifications qu'elle voulait apporter. Est-ce que les discours suivent une certaine structure-construction? Non. Non, non, il n'y a pas de structure, il y a les messages que tu veux faire passer. Hein. Quatre relectures. Alors, quatre relectures, c'est quand ça se passe bien. C'est quand ce que j'écris convient. Mon record, je crois que c'était 27. Relecture sur un même discours. Bah après, c'est des discours très importants sur lesquels on fait vachement gaffe. Est-ce que le film Quai d'Orsay est réaliste de mon point de vue? C'est le film le plus réaliste qui existe sur ce métier. Le film Quai d'Orsay est issu d'une BD qui s'appelle Quai d'Orsay, que j'ai là. Derrière moi, la BD Quai d'Orsay raconte les aventures d'un conseiller chargé des discours au ministère des Affaires étrangères sous Dominique de Villepin. Et cette BD a été écrite par un mec qui a fait effectivement ce métier. Et c'est une BD qui a eu un grand succès, qui a été adaptée au cinéma, dans un film qui s'appelle Quai d'Orsay. Et la BD comme le film sont ultra réalistes, parce que ça a été écrit par quelqu'un qui a fait ce métier, et moi j'ai personnellement vécu chaque case de cette BD. Y compris les situations absurdes, les trucs rigolos, les machins. Comment t'as recruté la ministre avant d'être recrutée? J'ai pas rencontré la ministre avant d'être recrutée. Je connaissais son collaborateur chargé des discours. C'était pas un pote plus que ça, mais on se connaissait. Moi, à l'époque, j'étais collaborateur de cabinet à la mairie de Paris, puis au conseil général de Seine-Saint-Denis, au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. J'étais conseiller du président. Et un soir, ce conseiller m'appelle. Et il me dit, il y a eu un remaniement comme tu le sais, je quitte le ministère, je vais travailler pour un autre ministre. La ministre m'a demandé de lui suggérer des noms pour me succéder. J'ai pensé à toi. Si ça te dit, j'ai besoin de ton CV demain matin à 8h. Et moi, je venais d'être recruté au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et vraiment, ça faisait genre 10 jours que j'étais là. Et on me propose ça. Alors, on me propose pas le poste, hein. On me dit ton CV parmi plusieurs. Je dis ok, très bien. Je dors assez peu cette nuit-là. Je discute avec ma copine. Je discute avec un pote qui est collaborateur de cabinet aussi. Il me dit réfléchis pas trop, fonce. Je dis ouais, mais est-ce que je dois en parler en interne à mon boss et tout? Non, c'est encore trop tôt là dans le processus de recrutement. Vas-y, balance ton CV, on verra bien. Pour Troussel, ouais, je travaillais pour Troussel. Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. Best bro. Et donc j'envoie mon CV et je reçois un coup de fil du secrétariat du directeur de cabinet qui veut me rencontrer. Donc je vais rencontrer le directeur de cabinet au ministère avec mon petit costume cravate. Faut croire que je fais bonne impression. Il m'avait demandé. Ah ouais, attends, il m'avait demandé. C'est quoi pour vous les différents types de discours qu'on entend en ce moment au gouvernement? Et je lui avais dit, et je lui avais fait une espèce de démonstration sur, il y a les discours comme Taubira, très littéraires, très lyriques, très beaux, très puissants politiquement, mais qui disent pas grand chose de technique. Et elle a un ministère qui permet le lyrisme, voire qui l'encourage, alors que nous, c'est pas le cas. Et ensuite, il y a Najat Belkacem, beaucoup plus technique, sharp, près des dossiers, qui parle aux professionnels, et qui permet de mieux fonctionner dans son ministère. Je me souviens plus très bien de la discussion, mais il y avait un truc comme ça. Je repars chez moi, j'ai aucune info. Bon, là, je décide quand même d'en parler à mon chef de cabinet pour lui dire, écoute, je viens de faire un entretien d'embauche pour le ministère, pour le cabinet de la ministre. Et il est très sympa, il le prend bien. Il me dit, j'espère que tu l'auras, parce que c'est un beau poste et ce serait cool. Mais bon, on n'y est pas encore, donc pour l'instant, je le garde pour moi, j'en parle pas au patron. T'avais quel âge? J'avais 24 ans. Ouais. Je crois. Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone du secrétariat particulier de la ministre, qui me dit que la ministre veut me rencontrer. Donc je retourne au ministère. Et je vais dans le bureau de la ministre et je rencontre la ministre et entre-temps j'ai appris que j'étais en finale avec deux autres profils. Un profil d'énarque, fonctionnaire haut placé du ministère des Affaires Sociales. Et l'autre profil, c'était une agrégée de lettres modernes. Bon, on va y aller, hein. Moi, je suis collaborateur de cabinet de collectivité territoriale. Bon, après, elle a été présidente de conseil départemental, donc elle sait ce que c'est. Bref, je vais rencontrer la ministre, et je sais pas très bien ce que je lui dis, mais je crois, parce que j'ai eu un débrief derrière par le chef qui m'a dit que j'avais été le plus politique. Je lui avais parlé de politique, en fait. Je lui avais parlé de... Ça sert à quoi de prononcer des discours dans un gouvernement où rien n'est audible, où personne n'écoute personne, où seules les petites phrases sont recherchées, à qui on parle quand on prononce un discours. Enfin bref, j'avais été hyper tactique, stratégique. Bref, j'ai eu le poste. J'ai eu le poste, et là, il fallait que je l'annonce à mon patron, au président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et du coup, je me balade dans les couloirs du conseil départemental, à côté, pas loin de son bureau. Et là, je le croise qui sort des chiottes. Et le président, il se tourne vers moi, il me fait « Alors Jean, ça se passe bien cette prise de poste ?» Alors justement, Stéphane, je voulais te parler. Voici ma lettre de démission. Et là, vraiment, il hallucine, il fait « Quoi ?» C'est quoi ces conneries? Je dis, en fait, voilà, j'ai rencontré la ministre ce matin et j'ai été recruté pour devenir collaborateur de cabinet ministériel. J'espère que tu me comprends à l'âge que j'ai et tout. Et il me dit, putain, t'es chiant quand même, j'étais content de t'avoir recruté, on venait à peine de commencer et tout. Je dis, je suis vraiment désolé, Stéphane, j'espère que tu m'en veux pas. Et il me dit, non, file. Casse-toi. T'as raison, je ferais pareil à ta place. Vas-y, dégage. C'est chiant. Il nous emmerde le gouvernement à nous prendre, nous prendre nos collaborateurs. Et on s'est recroisé avec Stéphane, genre 2 ans plus tard. Et il m'en voulait pas du tout. Il était trop content de me voir et tout. Je suis, ah, Stéphane, comment tu vas? Et voilà, le best bro, Stéphane. Désolé. Désolé, le coup de pute. Tu m'as embauché, je t'ai quitté dans la minute. Pas sympa. En vrai bienveillant, ben ouais, en vrai bienveillant et puis lucide aussi, il se doute bien qu'une proposition comme ça, bah c'est chaud quand même, on peut pas dire non. Donc voilà, donc j'ai commencé mon poste comme ça. C'était ridicule parce que j'avais une secrétaire qui avait le même âge que moi. Alors c'était pas ma secrétaire attitrée parce qu'elle partageait plusieurs conseillers. Je lui ai dit, écoute, clairement, moi, t'as pas besoin de t'occuper de moi. Je me gère tout seul. Je vais pas avoir beaucoup de réunions. Je vais pas avoir beaucoup de rendez-vous. Je vais pas avoir beaucoup de déplacements. Si j'ai des gens à appeler, j'ai leur numéro de téléphone. Donc en vrai, détente, tranquille. Et effectivement, je me gérais tout seul. Hein. J'avais pas de. Donc voilà. Et je portais le costume cravate tous les jours. J'ai toujours mes costumes, je rentre plus dedans. Je crois que je les ai ressortis pour un mariage une fois. Et non, bah non, tiens, la veste que j'ai là. Ah non, 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 cette veste-là, je l'ai achetée pour le mariage de mon meilleur pote. Donc je l'avais pas à l'époque. Mais j'ai toujours mes costards. Et mes chemises. C'est obligatoire les costumes? Oui, dans le ministère dans lequel j'étais, le costume était obligatoire. Clairement. Tout le monde le portait, tu te poses même pas la question, t'en mets un, tu discutes pas, tu réfléchis pas, tu mets un costard. Il y avait une tolérance le week-end. Le week-end, moi je venais en sweat et en jean. Mais sinon, non, c'était costume. Les locaux étaient confortables? Oui, absolument. C'était le ministère des Affaires sociales qui existe toujours, hein, qui est toujours avenue du Ken à Paris. Et clairement, c'est un bâtiment ultra moderne. Alors d'ailleurs, historiquement, c'est un bâtiment qui a été rénové plein de fois, mais qui a été les toutes premières caisses de sécurité sociale. C'était les caisses parisiennes de sécurité sociale qui étaient là. On allait chercher physiquement son argent dans les années, je sais plus, 20, 30, un truc comme ça. Enfin bref. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment ultra moderne et c'est trop bien de bosser dans des ministères modernes parce que je suis allé visiter des potes qui bossaient dans des ministères, dans des beaux palais un peu sympas, des hôtels particuliers, l'hôtel du Châtelet notamment, des trucs comme ça. Et franchement, les locaux sont exigus au possible, c'est un enfer, c'est trop mal branlé. T'as du parquet qui craque, on t'entend marcher à 20 km, l'internet il est pourri, c'est mal isolé, tu te pèles les miches, t'es sous les toits et tout. Enfin vraiment, il y a des ministères, t'as pas envie de bosser dedans. Matignon, l'Élysée et tout, c'est vraiment des bâtiments de merde. Nous, on était dans un bâtiment ultra moderne et vraiment, c'était trop cool. L'Assemblée nationale, pareil. L'Assemblée nationale, c'est horrible. Ça dépend des bâtiments, parce qu'il y a plusieurs bâtiments de l'Assemblée nationale. Et si tu bosses au 101, t'es assez tranquille. Des conseils pour où acheter des costumes et combien de costumes pour un an au cabinet. Alors non, 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 me demandez jamais des conseils de mode, les gars. Là, vous m'oubliez. Hein. Non, 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 non. J'avais une rotation entre 3 costards. C'est tout. Un bleu, un gris, un noir. Nul. T'as été conseiller parlementaire aussi? Jamais. Je n'ai jamais été conseiller parlementaire. J'ai travaillé en collectivité territoriale, j'ai travaillé en ministère, mais jamais au Parlement. Tu le mettais combien de fois avant d'aller au pressing? 1 milliard de fois. J'allais jamais au pressing, c'était galère, c'était loin de chez moi, c'était chiant. Pourquoi t'as arrêté? Pour me lancer sur Twitch. L'appel de la Twitcherie. Je me suis lancé sur Twitch en 2015, juste après le cabinet. Et j'ai streamé devant 5 viewers pendant un an. Est-ce que tu dirais qu'il faut être écrivain pour faire ça, au sens où tu pourrais aussi écrire de trucs romans ou autres? Non. Écriture de discours, c'est très spécifique. Je pense qu'il faut être très politique. Pas besoin d'être écrivain. Pas faire de fautes d'orthographe, évidemment, mais il faut surtout être politique, en fait. Un discours de politique, c'est un acte politique en soi. On n'est pas là pour faire de la littérature, faire des licences poétiques et tout. Ça n'a pas sa place dans un discours. Qu'est-ce qui t'a fait percer sur Twitch? J'ai jamais percé sur Twitch. J'ai eu une progression linéaire. J'ai jamais percé d'un coup. T'as écrit des petites phrases? Non, les petites phrases sont jamais écrites. T'as fait Sciences Po? Non, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait du droit. Sauf quand t'as gagné la Zilane, c'est vrai. UK Viewer, j'ai jamais percé. Bah non, parce que percer, ça veut dire faire une percée. Percer, ça veut dire, grâce à un buzz, exploser son nombre d'abonnés de manière relativement abrupte. C'est ça qu'on appelle percer, dans la musique, dans le sport, dans machin. Moi, j'ai jamais percé, j'ai jamais fait de pic spectaculaire d'un coup qui m'aurait fait passer de l'ombre à la lumière. J'ai jamais eu ça. Je suis monté de manière crescendo, petit à petit. Le The Event, t'as pas fait ça? Non, le The Event m'a pas fait percer. Hein. Le The Event, j'avais pas beaucoup de viewers. Hein. J'étais un petit streamer du The Event. Et j'ai pas gagné monstrueusement des abonnés après le The Event. J'ai fait ma place tout petit. Petit à petit. Percer, c'est faire sa place selon moi. Ah bah pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, percer, c'est une certaine manière de faire sa place. La motion de censure du gouvernement Borne. Alors là, j'ai fait 90 000 viewers, mais c'était pas... c'était beaucoup des viewers qui me connaissaient déjà. Parce qu'avec le temps, enfin, j'ai 250 000 followers maintenant sur Twitch, je suis connu de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent pas regarder tous mes streams tout le temps, mais qui savent que j'existe. Et quand il se passe quelque chose de politiquement instable, bah, y a beaucoup de gens qui ont le réflexe de venir sur ma chaîne pour regarder. Mais c'est pas des gens qui me découvrent. Rarement des gens qui me découvrent. C'est des gens qui me connaissent déjà, qui savent que j'existe, que j'appartiens au... Je suis là. Et je ramène ma gueule parce que là, apparemment, politiquement, il se passe des dingueries. C'est normal. La politique fabrique aussi de ces moments d'événements. Quand je me fais chier à vous faire des émissions sur les élections européennes 6 mois avant l'élection, il n'y a personne. Ah bah là, il n'y a personne. Ah bah forcément, je vous casse les couilles. Ah bah voilà. Mais quand il se passe des dingues, des 49-3, des motions de censure, alors là, ça rapplique. Alors, est-ce qu'il y a du sang? Comment ça se passe? Je rigole et je vous aime d'un amour immodéré. Vous venez quand vous voulez. Vous venez si vous voulez. Vous venez habillé comme vous voulez. Vous vous mettez bien et on discute. Tu viens de me résumer, fact. Là, je vous connais, hein. Quand on aura un nouveau Premier ministre du NFP, il n'y aura plus personne. Ah, on va rentrer dans le détail. Là, on va rentrer dans le détail des lois. Là, on va rentrer dans le détail du programme du NFP. Ah, il n'y aura plus personne. Le truc, c'est que t'es pas assez lisse pour être big. Ça me fait plaisir que tu dis ça, parce qu'en général, on m'accuse d'être trop lisse. Alors, façon, moi, on m'accuse d'être trop à gauche et trop à droite en même temps. Et trop lisse et pas assez lisse. Voilà. Je prends trop parti. Et en même temps, pas assez. C'est trop au centre. Voilà, c'est ça. T'es trop politisé. Oui, c'est ça. Jean Massier, il est un peu trop politisé quand même. Hein. Non, c'est mieux les gens qui parlent de politique, mais moins politisé. Faut pas être trop politisé quand on parle de politique. Parce qu'après, ça politise trop. Non, faut pas politiser. T'es de gauche humainement et de droite subment. Absolument. À niveau abonnement, je suis de droite. Hein. Si vous pouviez vous abonner à ma chaîne de manière à ce que je gagne davantage de pognon rapport aux factures et aux pâtes que je mange, merci. C'est politisé ou du coup, parce qu'en 2 ans, j'ai pas trop compris. C'est fait exprès, t'inquiète, c'est tranquille. Si vous arrivez pas à me caler, si vous arrivez à me caler quelque part politiquement, très bien, je m'en bats les couilles. Ne vous forcez pas à me le dire. Et si vous n'arrivez pas à me positionner politiquement, très bien, je m'en bats les couilles aussi. Je vis très bien sans. À quand le déménagement à Malte? Ah, quand je vais commencer à palper, hein. Un jour peut-être. Je crois que t'es anti-RN. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ça, je l'avoue. Je l'avoue, je suis antiraciste. Alors ça, dans les années 2020, en France, c'est une prise de position politique que dire qu'on est non-raciste. Bon, alors on va faire avec, hein. C'est terrible, n'empêche. Ah non, mais c'est... Enfin... Vraiment, hein. C'est chiraquien, quoi. C'est au début du siècle, c'était tellement pas pareil. Le monde était tellement pas pareil. La France était tellement pas pareil. L'espace médiatique était tellement pas pareil. On s'est tellement habitué à des dingueries d'extrême droite que le simple fait de dire « je ne suis pas raciste » te catalogue, te positionne et tout, mais c'est une dinguerie. Tellement de connivence, tellement d'acceptation de après tout, oui, mais c'est bon, ils ont changé et tout, machin. T'es en mode, mais. Mais c'est catastrophique, c'est terrifiant. Et c'est fou parce que. Il y a des gens qui me disent que j'ai du courage de ne pas inviter l'extrême droite dans mes émissions. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas tort, parce que c'est pas facile d'assumer de ne pas inviter l'extrême droite dans des émissions politiques. La pression, elle existe. Elle est réelle, enfin, c'est... Je revendique pas d'avoir du courage, je constate juste que c'est hallucinant que ça relève d'une forme de courage de dire non à l'extrême droite. Et ça devrait pas l'être. Moi, je devrais être tiède normalement. Dans un monde normal, je devrais pas être. Quand je dis que je suis antifasciste, je devrais pas être catalogué je sais pas où. En fait, ça devrait être une espèce de banalité de dire ça. Mais évidemment, on est antifasciste, on l'est tous. Enfin, D'ailleurs, l'extrême droite au pouvoir, tu fais quoi niveau émission? Bah, je fais des émissions d'opposition. Je fais des émissions de résistance. Parce qu'on va en venir là. On va en venir dans ces moments absurdes où il faudra aller sur Internet pour trouver des émissions qui refusent le racisme. T'es antifasciste et communiste maintenant. Mais grave, non mais c'est ça. Enfin, tu dis, mais on a panthéonisé Manouchian. Il y a quelques semaines, on a panthéonisé Manouchian. Et il y a des mecs qui viennent te voir en te disant « Ah oui, mais l'antifascisme quand même, gauchisme, radicalité, violence et tout. » Putain. Comment tu peux célébrer la résistance communiste des étrangers, des FTP-MOI et gueuler et faire la fine bouche sur une possibilité d'éventuellement faire alliance avec le communisme. Putain, les gars, mais la perte de boussole, la perte de valeurs élémentaires en République, tout se vaut. Voilà, tout est égal à tout. Finalement, après tout, le RN et LFI, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. C'est kiff-kiff. C'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes idées même. Parfois, j'ai lu. T'es en mode, mais... Enfin... Comment tu peux... Si c'est passé à côté de son époque, alors je passe à côté de cette époque. Mais très bien. Et si c'est être de son temps que de donner la parole à l'extrême droite, alors je suis pas de mon temps. Et ça me va très bien. Je reste Yves Montand. Non, elle est nulle cette blague. Je valide. Le racisme dans les médias et en politique a tellement été banalisé que les gens ont perdu la notion. Ouais, les gens ont perdu la notion et les gens la relativisent, en fait. La font rentrer dans le domaine de l'acceptable et du discutable, soumis à discussion. Genre, on peut amender un programme raciste pour le rendre un peu moins intolérable. Ah, c'est pas toutes les couleurs de peau. Non mais enfin, tu vois, tu rentres dans des négociations impossibles. Aujourd'hui, on te dit que le racisme est à gauche, c'est compliqué de détricoter ça. Oh, oui, non mais de toute façon, tout est inversé. Hein. Le racisme est à gauche, l'antifascisme est à droite. Tout est sans dessus-dessous et c'est terrible. C'est terrible d'abord et avant tout pour les personnes concernées, pas pour les mecs comme moi je vais très bien. Mais les personnes racisées, les personnes pauvres, les personnes qui galèrent, les personnes qui sont victimes de discrimination, c'est pour elles que c'est dur. Je suis né l'année de l'investiture de Mitterrand, pour moi, voir ça aujourd'hui, pour moi c'est incompréhensible. Bah ouais. Oui, parce que t'as connu les années 90, t'as connu les années 2000, t'as connu une époque où l'antiracisme était un projet de gouvernement, en fait. Chirac, entre 2002 et 2005, il a quand même pris au sérieux la menace de Jean-Marie Le Pen, hein. Il a porté les choses. Et c'est à partir de 2006, c'est à partir de 2007, de l'accession de Nicolas Sarkozy, qu'on a commencé à prêter le flanc à des interprétations nouvelles qui passaient pour décomplexées et qui en réalité étaient des brèches de plus en plus béantes dans le pacte. Tu croises Macron, tu lui dis quoi? Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Déjà, Chirac, le bruit et l'odeur. Oui, mais il faut que vous arrêtiez de sortir le bruit et l'odeur comme l'unique argument qui consisterait à dire que Jacques Chirac était raciste. Parce que le bruit et l'odeur n'est pas l'échelle de ce qu'a fait Jacques Chirac au pouvoir. C'est une sortie raciste qu'a fait Jacques Chirac en 1993, de mémoire, et qui ne correspond absolument pas à ce qu'a porté Jacques Chirac à la présidence de la République et au pouvoir de 2002 à 2005. C'est comme sortir les conneries antisémites qu'a sorti Mélenchon pour dire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Il a dit des conneries antisémites. Ça lui est arrivé. C'est dommage. Il aurait pas dû. C'est triste. C'est comme ça. Mais fondamentalement, son programme n'est pas antisémite et s'oppose vigoureusement à l'antisémitisme dans sa racine. Donc c'est pareil, arrêtez avec le bruit et l'odeur. Ça correspond à une période spécifique du chiracisme, mais pas à la réalité de ce qu'a fait Jacques Chirac. Et de son legs politique. Il y a les bons racistes et les mauvais racistes, quoi. Non. Il y a des personnes qui ne sont pas racistes qui disent des conneries racistes. Qu'est-ce qu'il a dit d'antisémite, Jean-Luc Mélenchon ? Il avait sorti une connerie sur le substrat juif de Éric Zemmour. C'était un peu un classique de l'antisémitisme qui lui est sorti comme ça. Et dans une autre interview, à un autre moment, il avait ressorti le truc du peuple peuple déicide à propos du peuple juif. Vieille lune antisémite, classique, de l'antijudaïsme chrétien, historique, etc. Enfin, une connerie, quoi. Le peuple régicide, c'est nous. Oui, le peuple régicide, c'est nous. Mais le programme de la France insoumise est-il antisémite ? Non. Le programme de la France insoumise n'est pas antisémite. Et on peut même argumenter qu'il s'oppose au fondement même de l'antisémitisme qui consiste à faire le tri entre les Français sur la base de leurs convictions religieuses ou de leur appartenance ethnique. L'attaque du Rassemblement national sur les personnes binationales en utilisant l'argument de la double allégeance, c'est antisémite profondément, parce que ça ressort l'argument classique du XIXe siècle comme quoi les juifs ne sont pas totalement français parce qu'ils sont juifs, et qu'ils ont donc une double appartenance à la fois au peuple juif et au peuple français, et que donc on ne peut pas tout à fait leur faire confiance. C'est ça l'antisémitisme. La France insoumise propose une lecture de la nation basée sur les droits de l'homme, basée sur un pacte politique fondé entre les citoyens. C'est le classique Robespierrin de Jean-Luc Mélenchon. C'est fondamentalement contre l'antisémitisme. Voilà. Et ça n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon d'avoir dit des conneries antisémites. Eh oui, bah oui, ça lui arrive d'être décevant. Pourquoi les gens qui parlent d'antisémitisme pour LFI ne veulent pas plutôt parler d'antisionisme ? Parce que les notions se mêlent, et c'est ça le problème, c'est que les notions deviennent floues et que antisionisme, antisémitisme se mélangent, et que antisionisme et opposition au gouvernement de Benjamin Netanyahou se mélangent aussi. Il y a des sionistes, et il y en a beaucoup, qui condamnent radicalement le gouvernement de Benjamin Netanyahou et les massacres qu'il perpétue à Gaza. Il y a des antisionistes qui sont pas antisémites, mais qui s'opposent à la construction d'un État d'Israël qui serait par nature colonialiste. Il y en a qui défendent qu'il ne l'est pas par nature, mais qu'il l'est par destination, par ces différents gouvernements qui, eux, sont effectivement colonialistes, et par cette extrême droite israélienne, en fait. Donc les choses se mélangent et on a beau jeu d'accuser l'ennemi de faire, ou l'adversaire, de faire l'objet de d'amalgame. On amalgame l'autre à une simplification. On amalgame le juif au sioniste. On amalgame le juif à Netanyahou. Donc on est antisémite quand on fait ce genre de conneries. Et on amalgame le terroriste à l'antisioniste. Le terrorisme à la critique de l'action du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ah, vous n'êtes pas pour Benjamin Netanyahou? Ah, mais c'est donc que vous soutenez le Hamas. Vous êtes donc des terroristes islamistes. Et voilà quoi. Et on arrive à un moment où en fait la discussion n'est plus possible, ça j'espère que vous l'avez remarqué, on est dans l'attaque perpétuelle de tout le monde en permanence, etc. Et la précision sur les mots qui sont utilisés devient impossible, et surtout la nuance est interdite, parce qu'on en est là, hein. La nuance est interdite. T'es soit un génocidaire, soit un antisémite. Et vous n'êtes pas obligé de participer à ça. C'est aussi ça le enfin. Vous n'êtes pas obligé de participer à un débat que vous trouvez pipé d'entrée de jeu, que vous trouvez nul, que vous trouvez non avenu, que vous trouvez inintéressant, etc. Vous n'êtes pas obligé d'y participer, de vous déclarer quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de participer à ça. Vous n'êtes pas obligé de participer à un cirque qui ne vous regarde pas. Vous forcez pas. Je ne contracte pas. Oui, voilà, c'est ça. Vous forcez pas. Vous n'y êtes pas obligé. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon serait au début de syndrome Joe Biden avec ses maladresses? Non. Non, Jean-Luc Mélenchon, il a des excès, mais il a pas des problèmes de mémoire et d'élocution comme Joe Biden. Joe Biden, là, c'est pathologique, hein. Enfin, ça devient grave, en vrai. Jean-Luc Mélenchon, il a toute sa tête, hein. Il sait ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, il est pas complètement gâteux, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas vrai. Il est pas si vieux le vieux. Oh, il commence à l'être. Jean-Luc Mélenchon parle fort. Enfin bon, faudrait arrêter avec ça. Je suis désolé, il y a des gens qui trouvent que Jean-Luc Mélenchon parle fort. Je suis forcé de constater, c'est leur opinion et il y a plein de gens qui l'aiment pas, Jean-Luc Mélenchon. Oui, il est sourd, c'est pour ça, oui. Non, c'est pas vrai ça. Ça marche pas. Il arrive à être extrêmement calme. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon, pendant les campagnes présidentielles, c'est un agneau. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, la stratégie de la tortue sagace. Jean-Luc Mélenchon, pendant les campagnes, il est adorable. Il est gentil comme tout, il parle tout doucement. Et ça se passe très très bien. Et sa cote de popularité ne fait que monter au fur et à mesure de l'élection présidentielle. C'est une stratégie de campagne. Ça revient à la question de l'apparence plutôt qu'à celle des idées. Oui, mais on a un système politique qui est construit autour des apparences et autour de l'élection présidentielle. Donc, tu as aussi. Les gens jugent une personne au moment d'une élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est difficile pour lui d'avoir des marges de progression compte tenu du fait qu'il est peu apprécié par beaucoup de citoyens qui ne l'apprécient pas, notamment pour ses excès. Il y a aussi énormément de citoyens qui n'apprécient pas du tout Emmanuel Macron pour son caractère méprisant. On n'avait pas remarqué. Ils ont trouvé un premier ministrable au NFP ? Non, pas encore. Enfin, si, ils ont dit qu'ils en avaient trouvé un, mais qu'on ne connaîtrait pas encore son nom, qui serait annoncé plus tard. Donc, on verra bien. Bon, les copains, il est 9h10. Je commence à avoir la dalle. Donc, on va se séparer là. Je vais vous faire des groupes ou tout, si vous le voulez. Et on se retrouve, je sais pas quand, demain ou jeudi. Jeudi, c'est sûr. Pour la séance inaugurale de la législature. Merci les amis d'avoir été là, c'était cool. Je vous fais des bisous, passez une bonne soirée. À tout bientôt, ciao.